C'est vrai, vous me confirmez, c'est le moment d'acheter, monsieur Plaza.
C'est toujours le moment d'acheter, mais là, avec moins de 2%, il faut acheter maintenant, mais chez Stéphane Plaza Immobilier.
Comment vraiment. Vous dites moins de 2%, mais moins de 1%, cher Stéphane? Sur des, oui, ben avec sa banque, c'est moins de 1%.
Oui, absolument.
Absolument. Et plus assurance, mais j'y suis en plein dedans.
Vous cherchez à acheter, monsieur Bénichou?
Non, moi, je cherche à vendre.
Ah oui?
Avec tout ce que j'ai acheté les dernières années.
Qu'est-ce que vous cherchez à vendre?
6 pièces avenue Foch. Mais pas cher, 3000 le mètre.
Personne ne doit habiter avenue Foch. Va trouver une épicerie avenue Foch.
C'est pas ce qu'on cherche. C'est un truc qui peut t'intéresser. On cherche des domestiques. Voilà. Tout ce que j'ai à te dire. Non, mais c'est vrai
quand
que...
Quand est-ce que vous avez eu moyen d'acheter cet appartement avenue Foch, monsieur Bénichou?
Ben, quand j'étais Mac.
Ah oui, donc c'est 6 pièces, mais pas dans le même appartement. Non.
À vrai dire, c'est pas du Foch à Paris.
Ah,
du Foch à Beyrouth.
Alors là, je fais pas la vente.
C'est beaucoup plus animé. Il y a des bruits de mitraillette quand la Kalachnikov, des bruits de baiser aussi.
Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Bénichou?
Qu'est-ce qui m'arrive?
Oui.
Il m'arrive que je me dis, il faut que j'en fasse beaucoup maintenant. Ils me feront plus chier pour la fin de l'émission.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on...
C'est que si on fait tous pareil, le début va être bien.
Pierre donne tout au début. C'est comme ça, puis après...
Ah ouais.
On va essayer de dispatcher, non, peut-être
Ça y est. La jalousie est un vilain défaut.
Allez donc, monsieur Bénichou, vous n'allez pas être jaloux de Muriel Robin, tout de même.
C'est le contraire, c'est elle qui est jalouse. Vous
êtes quand même content de retrouver votre Pierrot.
Il y a des petites qui sont mignonnes. Comment elles ont pu dégoter des mecs aussi nantes?
Mais quelle faconde.
Vous êtes content de retrouver votre Pierrot, votre Pierre Palmade, quand même.
Qui ça?
Pierre Palmade.
Je l'ai pas reconnu.
Il m'a connu tellement jeune.
De ce côté-ci, je vous présente quand même Marcela Yacoub, Marc Lambron, les intellectuels, et aussi, évidemment, quand même, Stéphane Plaza.
J'explique. J'ai pas très bien compris le « et aussi ».
J'explique pour les auditeurs qui n'ont pas l'image. Hein. D'un côté, vous avez les deux Pierres, Pierre Palmade et Pierre Bénichou, avec Muriel Robin. Et de l'autre, vous avez les deux intellectuels, Marc Lambron et Marcela Yacoub, avec le petit Plaza qui...
Je sais pas comment on va le prendre, Muriel. C'est comme si on était les petits bouts en train, les...
C'est comme si qu'on était. On est donc devant un académicien, ouais. Tu dis, c'est comme si qu'on était.
Eh ben, il faut le ramener au peuple.
Non, mais je veux dire, c'est pas de ramener au peuple. C'est que tu vas finir dans un trois pièces, toi.
Vous aimez bien Stéphane Plaza.
Ah, moi j'adore.
Mais pourquoi vous l'aimez bien, Marcela?
Parce que moi je trouve que, à mon avis, il sait tout, il connaît tout, mais il fait semblant de ne rien savoir.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr. Mais oui. Ne perds jamais.
Eh bien, tu es tombé dans le panneau.
Ne perds jamais de vue cette femme. Garde-la toujours, soirée importante, gros rendez-vous, toujours cette femme avec toi.
Oui. C'est signé.
L'amour rend aveugle, hein, manifestement.
Non, pas du tout. Moi, je pense aussi que c'est le Socrate de l'immobilier.
Il est temps de passer à une première citation pour Stéphanie Bon, qui habite Bas-en-Basset, c'est en Haute-Loire.
Ah oui, c'est très joli, Bas-en-Basset.
Vous connaissez?
Oui, c'est pas très très loin de Saint-Étienne, très joli, jolie campagne.
Vous devez connaître aussi Monsieur Lambron, vous qui êtes de Lyon.
Non, oui, bien les sûr. Stéphanois ne connaissent pas la même chose que les Lyonnais.
Ah oui, rien à voir.
Lambron, vous avez quel âge?
En football, comment?
Vous avez quel âge?
Pourquoi?
Je vous demande comme ça.
Mais pourquoi?
Comme ça,
ah, non, mais
j'ai ma carte senior depuis 2 ans.
Vous avez 40 ans.
Voilà.
Et pourquoi vous voulez savoir ça?
Non, s'il avait été moins lent, c'était marrant. C'était... Quand on dit vous devez connaître ce truc, vous qui êtes de Lyon. Alors, c'est un village inconnu à 300 km de Lyon. Ça aurait été marrant de dire vous avez quel âge? Ah, il est 47 ans. Mais vous devez connaître mon cousin, il en a 46. Je ne parle pas à ces deux professionnels dont la jalousie et l'envie sont les deux mamelles. Les deux mamelles.
Tu as dit un truc très juste au départ, c'est que c'était au tout début que tu étais très bon. Même si j'adore le coup du cousin.
On n'est pas loin de la fin de l'émission, non?
Allez, Une citation quand même pour Stéphanie Bon, donc de basse en bassée, c'est parti de là.
Oh, c'est un joli village.
Qui a dit en voiture, l'homme et la femme sont complémentaires. Les hommes ne savent pas par où aller, alors que les femmes savent qu'il fallait pas passer par là.
Un Français.
Un Français.
Vivant.
Un Français vivant.
Un coureur automobile.
Humoriste. Non.
Humoriste, oui.
Bah, oui. Patrick Timsit.
Moi, franchement, j'ai pas compris le, Gad Elmaleh, la phrase.
Patrick Timsit.
Vous comprenez les... Est-ce que Stéphane, tu comprends le sens
moi,
de la
comme
phrase
toi, j'ai pas très bien compris.
Il vaut mieux apprendre le français d'abord, madame. C'est tout, on en a marre des gens qui arrivent et ils peuvent pas dire. Quand ils ne peuvent pas dire, n'habitez pas.
Il y a très longtemps que tu n'as pas parlé ou qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, j'ai pas compris.
Tout d'un coup, on a l'impression que c'est un besoin, que c'est irréfréné. Enfin, quitte à dire tabouret, chaise. Arrête de regarder mes fesses quand je te parle.
Je te jure. Tu sais que j'ai toujours regardé tes fesses.
Non, mes jambes, mais mes fesses, j'avais pas fait attention.
La chienne.
Comment tu le sais?
Alors Marcella n'a pas bien compris.
Non.
Non, j'ai pas compris les sens et la phrase.
Mais moi j'ai pas compris l'histoire du cousin, faut la redire.
En voiture, l'homme et la femme sont complémentaires. Les hommes ne savent pas par où aller, alors que les femmes savent qu'il fallait pas passer par là.
Guy Bedos.
Guy Bedos, non.
Olivier de Benoît.
Non, mais c'est plus cette génération.
Fernand Reynaud.
Enfin. Il n'y a pas si vieux.
Il y a des moments, il est marrant. Hein.
Et les moines?
Jean-Luc Lemoine, bonne réponse de Marcella Yacoub. Jean-Luc Lemoine. Et d'abord, vous donnez la date de la visite de Mao à Staline. On est en décembre 1949 et c'est la première visite de Mao Tse-tung à Staline, à Moscou. Et lors de cette visite, Staline en a profité pour faire quelque chose. Quoi
donc? Il a regardé ce qu'il y avait dans les excréments de Mao Tse-tung.
Oui, il a analysé la merde.
Il a récupéré... pour voir, par exemple, s'il y avait un manque de potassium, ce qui l'aurait rendu extrêmement nerveux. Pour voir s'il y avait des acides aminés, tryptophane, qui l'aurait rendu plus heureux. Enfin, voilà.
Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. En effet.
Et c'est lui qui a lancé l'expression, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis.
Mais c'est quand même assez incroyable d'imaginer qu'effectivement les services secrets, parce qu'ils ont fait ça évidemment à l'insu hein, de Mao, c'est tout, ils lui ont pas réclamé, c'est ça la Mao.
Mais non, oui, mais alors comment il a été aux toilettes, il a pas tiré la chasse.
Ils avaient conçu des toilettes particulières pour récolter les selles de Mao. Vous vous rendez compte un peu
ça arrivait directement sur le bureau de Staline.
Il y a un bouquin par un historien américain, un journaliste d'ailleurs génial, qui s'appelle David Alberstam, où il est écrit que Mao s'était plaint, parce qu'on vient de l'apprendre cette histoire, on la connaissait pas. Mais on vient d'apprendre. Mais à l'époque, Mao s'était plaint de ce voyage parce qu'il avait dit ils ont passé leur temps à me faire bouffer, à me faire chier.
Mais ça Mao avait partout. Tellement de pouvoir qu'il payait peut-être quelqu'un pour chier à sa place.
Hein. Ah.
C'est une thématique aujourd'hui, non? Le gars qui prend les grosses têtes à 16h, il s'absente, il revient, on est encore aux toilettes.
Oui, mais pourquoi?
Non, écoutez, là, c'est un hasard, mais il se trouve qu'effectivement...
Oh, c'est un hasard.
Mais oui, c'est ça vient de tomber. Enfin, ça vient de tomber.
C'est tout frais. Mais voilà. De toute façon, c'est de l'histoire avec un grand âge.
Mais je vous jure que c'est vrai, ça vient de tomber. Écoutez, je n'invente pas.
Qu'est-ce qui vient de tomber, la pêche?
Non, c'est la révélation.
La dépêche, oui. Écoutez, je lis.
C'est une révélation.
Je lis l'article tel qu'il est écrit dans la presse.
Il est long, l'article.
Oui.
Enfin, il est torché ou pas? Il a pissé de la copie, le mec.
Staline lisait dans les excréments de Mao. Oui. Ça vient de sortir.
Il lisait l'avenir et il a dit on est dans la merde.
Une technique peu commune aurait été utilisée par Staline pour s'informer sur Mao. C'est la BBC qui a fait cette révélation. Les spécialistes russes proposaient des moyens extravagants pour obtenir des informations. Vient d'avouer un ex-agent secret qui s'appelle Igor Altamanenko. Les hommes de l'ex-leader de l'URSS avaient conçu des toilettes particulières pour récolter les selles du numéro 1 chinois. Et après, évidemment, ils analysaient ces excréments. Et effectivement, il manquait de potassium.
Et oui. Ça lui servait à quoi de savoir ça? Parce que de toute façon, il pouvait pas lui dire à Mao.
Attends, cette histoire
connaître ses faiblesses.
À Mao qu'il manquait de potassium.
Ah mais non,
c'était pour... Cette histoire se passe en 1949. Mao Tse-tung vient d'arriver au pouvoir. C'est pour connaître son tempérament, exactement. La psychologie, pour mieux
bien
comprendre
sûr,
la psychologie,
Mao
Tse-tung.
Tous les moyens sont bons pour mieux connaître son adversaire.
Bien sûr, bien entendu.
Peut-être qu'effectivement, M. Hollande, quand M. Castro. Enfin, Castro.
Monsieur Gastro.
Mais oui.
Vous saviez ça, que ce sont les Belges qui avaient inventé les toilettes à la turque?
Ah oui?
Les Turcs n'ont fait qu'ajouter le trou.
D'ailleurs, chez vous, on dit la toilette, on dit pas les toilettes.
Oui, bien sûr. À l'époque, on dit la toilette parce que en France, on dit les toilettes parce qu'il faut en faire plusieurs pour en trouver une qui est propre.
Il y a beaucoup d'espionnage comme ça, un peu particulier, un peu spécial. Vous qui connaissez bien les grandes ce monde, François-Olivier.
Eh ben, je crois.
Pour André Baran, qui habite Fraissine, pouvez-vous me donner le nom de ce photographe dont le fils, hélas, mourut dans un accident de deltaplane en 1988 ?
Ouh là là !
Ouh là !
Accident de deltaplane !
J'en parle parce qu'il y a un livre qui vient de sortir.
Est-ce qu'il est français ?
Retraçant... français, oui, monsieur. Il était né à Paris, oui.
Et il est mort, donc ?
Oui, il est mort. Alors, il est mort après son fils, voyez-vous.
Ah oui, bien sûr.
Son fils est mort en deltaplane en 88. Lui...
Gilbert El Volante.
Quoi ?
Gilbert El Volante.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah, c'est la cousine de deltaplane.
Jean-Michel Parapente ?
Non.
Michel ULM ?
Pas jamais le...
Photographe de mode ou de guerre ?
Ah non, pas photographe de mode.
D'actualité.
Photographe. Alors d'actualité, c'est vrai qu'il a été reporter, grand reporter, et c'est un de nos plus grands photographes.
Robert Capa. Robert Capa.
Non, il est mort en 2009.
Jean-Louis
Jonvel. Oui, c'est pas vieux.
Non, c'est pas. Cartier-Bresson.
Non.
Il y a des expositions de ce monsieur de temps en temps.
Absolument.
Douaneau.
Douaneau, non. Mais c'est un copain de Douaneau.
William Klein.
Non.
Il n'y a pas quelque chose qui porte
son nom. Il travaillait à Paris Match ?
Non, il ne travaillait pas à Paris Match.
Il y a quelque chose qui porte son nom, genre un prix, quelque chose ?
Ah bah non, mais il en a obtenu des prix. Le prix Nadar en 81, le prix national de la photographie en 79, vous voyez. Ouais.
Il a un homonyme connu ?
Non. Pourquoi il aurait un homonyme connu ?
Ça pourrait nous aider ?
Ah oui,
photographe de guerre ?
Non, pas photographe de guerre.
Est-ce que vous êtes sûr qu'on connaît le nom de ce monsieur ?
Ah oui, absolument, vous le connaissez tous, ça c'est
Isis,
sûr.
Isis ?
Non, il a travaillé au Time, pour Life, pour Point de Vue.
Il a un nom typiquement français qui sonne français.
Alors non, ça justement, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il n'est pas français.
Chef ?
Non, alors qu'il est français.
On peut imaginer qu'il est anglo-saxon ?
Oui, plus c'est vrai.
Bon alors attends, il a exposé, tu dis ? Il fait des expositions, mais dans quel genre d'endroit ? Dans
des maisons de la photographie, ce genre de choses ?
Voilà, est-ce que c'est dans les endroits sérieux ou c'est dans des petites expos
De merde.
Non, mais des petites expos de quartier ou c'est...
Qu'est-ce que vous appelez des petites expos ? Je suis pas en train de vous parler d'un photographe qui fait des kermesses.
Ouais. D'accord. Mais
est-ce qu'il faisait des identités pour les gens ?
Est-ce qu'il est vendu dans les salles de vente aux enchères, par exemple ?
Mais oui, bien sûr.
Parce qu'il n'y a que dans les salles de vente aux enchères que je pourrais le connaître.
Charles Maton qui faisait des photos.
Non,
joli.
Franchement, je vous rappelle que vous êtes grosses têtes les uns et les autres.
Bah oui, mais on n'est pas photographe.
Oui, mais enfin, moi, je veux dire, si j'avais été grosse tête, on m'aurait demandé le nom d'un photographe français, j'en aurais cité deux, trois, son nom me serait venu tout de suite.
Quoi, on n'a qu'à échanger, vous me donnez votre fiche, je vous pose la question, et puis hop, on est tranquille, c'est réglé.
Parce que je vous dis que même sans la fiche, vous m'auriez demandé trois noms de photographes français, je vous aurais dit
Cartier-Bresson, Douaneau,
je vous aurais dit Douaneau, Cartier-Bresson, et c'est peut-être le troisième que je vous aurais donné.
Raymond Depardon.
Non.
Il fait partie de Gamma, non ?
Non, Raffo.
C'est une agence, Raffo.
Ah, voilà, si en plus, vous ne connaissez pas l'agence Raffo.
On connaît Sigma.
Je connais Kappa, je connais Sigma.
Vous ne connaissez pas l'agence Raffo ?
Non, je connais l'agence Touriste.
Moi, je pense que vous avez inventé un photographe pour nous tourner en bourrique.
Enfin, mais vous connaissez rien, la photographie.
Vous avez inventé une agence de photographie qu'on ne connaît pas.
Oui, je connais l'agence Plaza.
Est-ce qu'il expose à Paris Photo,
mais oui, enfin !
Il signait ses photos ?
Non, il est énorme.
Avec quel nom ?
Noir et blanc ?
Non, bien sûr que non, il disait c'est Kodak, il disait...
C'est un truc genre Konica, un truc comme ça, Konica, il y a un truc qui s'appelle...
Konica, c'est japonais.
Mais non, pas photo, du tout. Non,
il a un nom en canon.
Il a fait du noir et blanc ?
Non, il a fait que de la couleur.
Il a un nom qui fait américain, en tout cas.
Bien sûr qu'il a fait du noir et blanc, vous voyez.
Canon ?
Il y a même un livre là qui sort, si je vous en parle. C'est parce qu'il y a un livre qui sort, vous voyez.
Et il y a des photos dans le livre.
Oui, parce que s'il y a des trucs écrits, nous, c'est trop fatigant. Hein. Oui. Il faut des images.
Mais non, mais
si c'est noir et blanc, il faudrait qu'on les colorie nous-mêmes à la main.
Il a un nom de... il a un nom qui sonne américain.
Il y a combien de syllabes,
Je vais vous dire quand même, par exemple, il y a eu une grande exposition aux rencontres d'Arles en 2009. Il y a eu 1936, le Front populaire, vu par lui à l'Hôtel de Ville en 2016.
Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de syllabes de son nom?
Bien, puis quoi encore?
Oh, bah écoutez, faut quand même...
Non, mais il a un nom de ce signe... Enfin, ça sonne américain.
Un travail sur les quartiers populaires de Belleville, de Ménilmontant... Il vous reste 30 secondes.
Charles Trenet.
Charles Trenet.
Oui, Charles Trenet.
C'est très américain. Oh. C'est très américain.
Charles Trenet.
Oh, alors là, vraiment, s'il y a bien une question sur laquelle je pensais pas donner un chèque de 300 euros, alors.
Eh ben, au but.
Il y a un monsieur ou une dame qui va être content.
Ne dites rien dans le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main, qui connaîtrait la réponse? Voyons voir.
Alors ça me rassure, personne ne lève la main.
Personne. C'est bien la peine de nous emmerder avec vos photos à la sortie du studio, alors. Alors c'est là. Maintenant, tout le monde est là à faire des photos et tout.
Avec les smartphones.
Ah non, non, mec, franchement...
Jean-Michel Smartphone.
Mais non, bah,
écoutez, je suis sûr qu'on ne connaît pas ce monsieur.
Son prénom?
C'est perdu.
En tout cas, le prénom, c'est
pour
c'est
vous, c'est alors... gagné pour l'auditeur, évidemment. Oh, bah, le prénom, c'est Willy. Willy
Rizzo.
Pardon?
Willy Rizzo.
Non.
Willy.
Ah non, Willy Messi.
Willy Ronis.
Et voilà, ah, oui. Willy Ronis, Pierre Bénichoux, mais c'est trop tard.
Alors... Je vais contre ce que vous dites.
Oui.
C'est parmi les très bons et très grands photographes qui d'avant-guerre à aujourd'hui ont fait le truc. L'inconnu.
Comment ça, l'inconnu?
Ronis, c'est un inconnu. Il y a trois ans qu'on
Mais non, puisque vous le connaissez, vous venez de dire son nom.
Mais moi, c'est mon métier.
Oh! Il fallait le trouver avant, alors.
Ouais. Ben oui, franchement. Vous connaissez tous la phrase « La vieillesse
est un naufrage ».
La vieillesse est un naufrage.
Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle.
Eh bien non, justement.
Eh ben non.
Ce n'est pas Charles de Gaulle qui, certes, prononça cette phrase, mais...
Jeanne Calment.
Non. Mais cette phrase, en fait, est extraite d'une célèbre œuvre littéraire.
Sûr.
De quelle œuvre littéraire est extraite « La vieillesse est un naufrage » Certes, reprise cette phrase par De Gaulle, mais ce n'est pas lui qui l'avait écrite.
Non, Hugo. C'est
Victor Hugo, non.
Un
auteur français, oui. Ah, je pensais que vous saviez bien.
Eh ben, du 18e, du 19e.
Alors, un auteur français du 19e.
Mais on va laisser gagner l'auditeur.
Stéphane Pollet, vous voulez laisser gagner, monsieur Pollet?
Dans Balzac.
Dans Balzac, non.
Hugo?
Hugo, non.
Il a fait une saga un peu comme Hugo,
Africa,
Balzac.
Comme Noah, un peu.
Non, non.
Musset?
Musset, non. Mais un grand, grand écrivain français. Hein. Quand vous aurez le nom de l'écrivain, vous aurez le nom de l'œuvre. Hein, parce que...
Il écrivait des pièces aussi?
Des pièces, non.
Balzac?
Balzac, non.
Jules Verne?
Jules Verne, non.
Zola? Oh! C'est genre Balzac?
C'est de ce niveau?
Qu'est-ce que vous appelez genre Balzac? Bah
aussi connu qu'Honoré.
C'est de l'époque et tout, c'est ça que je veux dire.
Bah, du 19e, je vous dis.
Aussi connu qu'Honoré, quoi, du niveau d'Honoré.
Flaubert?
Flaubert, non.
Alexandre Dumas?
Alexandre Dumas, non.
Edmond Rostand?
Edmond Rostand, non.
Alors, attendez.
Oh, je vais tenter Marc Lévy, mais j'y crois pas trop.
19e.
Une femme?
Lamartine?
Une femme?
La vieillesse est
une femme?
La vieillesse.
Hé, une femme.
Mais comment qu'elle cause?
Elle vous aime.
Chateaubriand.
C'est Chateaubriand et c'est
Mémoires d'outre-tombe.
Les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Eh oui, c'est dans les mémoires d'outre-tombe qu'on pouvait lire pour la première fois cette phrase « La vieillesse est un naufrage ». Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle ?
Moi, je ne sais pas, je ne suis pas concernée. Je vous dirai ça quand j'aurai dépassé la trentaine. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi je prends la voix de la calophone. Ma biscotte.
Mais qu'est-ce qui lui arrive ?
Il n'y a rien.
Elle était comme ça sur le tournage,
non,
Gérard ?
Très calme.
Pire.
Oh non.
Non, non, elle est charmante.
C'était exemplaire, calme, tout
le... Pas le soir.
Elle a des caprices.
Le soir, elle avait une très belle chambre.
Ah, j'allais vous demander justement si elle avait une roulotte sur le...
Avec une télévision qui descend.
Qui descend, ouais. La télévision, elle était dans le plafond pour pas gâcher la vue qu'il y avait sur la mer. Et donc, il y avait dans le plafond la télé qui se baissait comme ça et tout. Et j'ai invité toute l'équipe à venir dans ma chambre.
Oui.
Parce que je frimais tellement j'avais la plus belle chambre. On m'avait donné la plus belle
chambre.
Et personne t'a baisé, c'est con.
J'en étais tellement fier que j'ai envoyé à François Rollin, d'ailleurs, la vidéo. Et,
je l'ai conservée, tu penses
bien. Et qui durait très longtemps, parce qu'il faut que le temps que ça descende.
L'écran descend.
Comme ça.
C'est passionnant. Hein.
Et le lit aussi bougeait comme ça ?
Du tout, non.
Parce qu'il y a des lits parfois qui...
Oui, il y avait le choix, ou la télé descendait, ou c'était les lits qui montaient.
Remarque, quand ils se croisaient, t'avais le temps de la regarder 10 secondes.
Attention, une question pour Karl Touret qui habite Amiens. Si vous avez lu la presse aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question. Attention, c'est une question un peu sous forme d'énigme que je vais vous poser. Détroit, c'est celui qui n'est ni flûtiste, ni violoniste dont on parle dans la presse aujourd'hui. De quoi s'agit-il ?
C'est pas Capuçon, c'est pas possible.
Pardon ?
C'est Capuçon ?
Capuçon, non.
Non.
Détroit, c'est celui qui n'était ni... N'était, vous voyez, c'est à l'imparfait.
Ah, c'est un vieux truc, d'accord.
Détroit, c'est celui qui n'était ni flûtiste, ni violoniste dont on parle dans la presse aujourd'hui.
C'est un compositeur ?
Un compositeur, non.
C'était un groupe d'humoristes ?
Non.
Mais pourquoi
Un groupe de musiciens, quand même.
Un groupe de musiciens, non.
Non plus.
Mais pourquoi vous voulez savoir ça ?
Pour faire gagner 300 euros à M. Touret d'Amiens, vous voyez.
Oui. Alors, mais c'est quoi ? C'est une métaphore, alors, en fait.
Comment ça, une métaphore ?
Ben, c'est le fait de la flûte et du violoncelle. Non, c'est pour nous... De,
pas violoncelle, violoniste.
Michel, j'ai même pas compris la question. C'est-à-dire, la question est tellement compliquée. Détroit ?
Vous voulez que je vous la refasse ?
Oui, allez.
Oui, Ariel, suivez bien. Notez,
oui.
Ariel.
Ah, oui, oui.
Ariel, help
moi, j'ai noté
you should
flûtiste,
help me.
Violoniste.
Okay.
Détroit, c'est celui qui n'était ni flûtiste, ni violoniste, dont on parle dans la presse aujourd'hui.
Ah, qu'est-ce qu'il était, alors ?
Oui, mais ça veut dire que si on mentionne qu'il n'était ni flûtiste, ni violoniste, mais qu'on parle quand même de lui...
Oui.
Ça veut dire que...
Parce qu'on parle pas de celui qui était flûtiste.
Mais pourquoi on dit que c'est
parce
pas...
Parce qu'on parle pas de celui qui était violoniste.
On parle de celui qui a réussi.
Et dans la presse, aujourd'hui, il y a le nom de celui qui n'était donc ni flûtiste, ni violoniste.
Mais il y a le nom, Laurent, de plein de gars dans la presse aujourd'hui
qui sont
ni flûtistes, ni violonistes. C'est-à-dire, tu prends n'importe quelle rubrique, en économie, en sport, en politique, il y a des milliers de personnes qui sont ni flûtistes, ni violonistes, dont on parle aujourd'hui.
Il a raison.
C'est vrai que c'est un peu vaste.
Non mais, oui, mais j'ai quand même dit Détroit. Il faut donc trouver quelqu'un.
Détroit, donc c'est aux États-Unis. D'accord.
Non, j'ai compris. C'est trois frères.
Trois frères.
C'est une fratrie.
Alors oui, c'est une fratrie.
C'est une famille.
Alors, est-ce qu'ils portent le même nom?
Alors non, justement, puisque celui dont on parle, c'est celui qui n'est ni violoniste, ni flûtiste.
Et c'est chef d'entreprise.
C'est celui qui a réussi.
Celui qui a réussi.
On connaît.
Jacques Attali.
Non,
je sais pas.
Ah, quand vous allez connaître la réponse, vous allez vous amuser.
C'est le plus célèbre.
Ah, c'est le plus célèbre, oui.
Est-ce que lui joue du pipeau ?
Non.
C'est un acteur ?
Lui,
il est musicien.
Il ne joue d'aucun instrument de musique.
C'est un acteur, non ?
Un acteur, non.
Il est politique ?
Un chanteur, non.
C'est un metteur en scène ?
Un metteur en scène,
c'est
non.
Un peintre ?
Un peintre, non.
Non, mais enfin, s'ils sont trois frères, ils portent fatalement le même nom.
Pas
c'est
forcément.
Des êtres masculins.
Oui.
Non,
ils peuvent être demi-frères.
Il peut avoir un pseudonyme, un nom d'artiste.
Il s'appellerait Picasso. Il a un frère violoniste et un frère flûtiste.
Oui.
Et lui, voilà, avec la peinture.
Oui, mais il s'appelle Picasso.
Très belle démonstration.
On n'a pas dit qu'il ne s'appelait pas.
C'est un homme d'affaires connu.
Dont on parle aujourd'hui.
Ah, alors, celui dont on parle aujourd'hui, c'est vrai que son nom est connu grâce au monde des affaires, puisque c'est surtout, d'ailleurs, je tiens à le dire, dans les pages économiques.
Xavier Niel.
Non, dans les pages économiques des journaux qu'on voit son nom aujourd'hui. Ah, vous voyez, il ne suffit pas de lire L'Équipe, monsieur
Gazan.
Oui, mais
il est dans le monde des affaires et ses frères
c'est
sont.
C'est Leclerc,
non.
On a dit qu'il était français ou pas ?
Alors,
est-ce qu'il est A ?
Il devient chinois, pour tout vous dire, puisque ce sont les Chinois qui nous le rachètent.
C'est une marque ?
C'est une marque.
Ah, une marque de quoi ? De...
Le savon de Marseille.
Le savon de Marseille. Et quels sont les deux frères du savon de Marseille ?
Il y a une sœur qui s'appelle Savonnette.
Il y a Gel Douche. Il y a Gel Douche qui a un prénom composé.
Et la mère, c'est Bulle.
Mais en tout cas, là, on commence à brûler, vous voyez.
Ouais.
Ah, donc, est-ce que c'est une marque alimentaire ?
Une marque alimentaire, non.
Avec un
c'est la marque Naf Naf.
Bonne réponse ! Bonne réponse de Michel Bernier.
La marque comment ?
Naf
Naf.
Naf Naf, qui veut dire...
C'est pour Naf Naf, Nif Nif.
Et Nouf Nouf.
Mais t'es parti depuis longtemps, hein, Gad, en fait, toi.
La marque Naf Naf, il y a un petit cochon. Dans les bras.
Oui.
Bah ouais.
Oui. Naf naf. Mais un petit cochon
nif,
dans les bras.
Nif nif était violoniste. Nouf nouf était flûtiste. Oui. Mais naf naf ne jouait d'aucun instrument de musique.
Non. Il jouait de la truelle. Il était sérieux. Quoi. Oui.
Mais vous n'avez jamais lu Les Trois Petits Cochons?
Non, non.
Ils n'ont pas le droit.
Mais non, il n'y a pas le droit. C'est un louf.
C'est pas cachère.
Ils ont pas le droit.
C'est pas cachère, les trois petits cochons.
Il a lu Les Trois Petits Canards, ça passe.
Déjà le cochon.
Mais sans un dalmatien,
déjà le cochon, c'est pas cachère. Tu m'en mets trois, c'est pas. Non mais. Je viens de vivre un moment, on dirait que. Vous, c'est du café qui vous donne. Parce que. Comment vous passez de La Rochefoucauld à Nif Nif Naf Naf Nouf Nouf.
C'est une émission.
C'est un art.
Parce qu'on est des fantaisistes. C'est voilà. Une...
Pour Christelle Delanoë, qui habite Villers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Joachim Jiménez, ou Jiménez, si vous voulez que je prononce le J à la française.
Jiménez.
Voilà, Joachim Jiménez, oui, est le plus connu dans son métier. Mais quel est son métier ?
Ça se passe au Brésil ?
Ah non, c'est chez nous en France. Ah, en France. Il est né à Saumur, Joachim Jiménez.
Ah, Saumur, Pierre Renoir.
Dans le Maine-et-Loire.
Est-ce que c'est un sportif ?
Un sportif, non.
Qu'est-ce que vous entendez par « il est le plus connu » ?
Ben, c'est un maître dans son domaine et c'est le
pas très connu.
Plus connu de tous les gens qui font ce métier.
Mais il n'est pas connu par nous, par exemple.
Non, la preuve.
Est-ce
que c'est un artisan ?
Un artisan, oui.
Souffleur de verre.
Il restaure des vieux monuments. C'est un ami Stephen Bern, non ?
Quelle imitatrice.
Non.
Un saboteur.
C'est le meilleur boulanger.
Ah non, boulanger, ça, on en connaît des boulangers.
Est-ce que c'est l'agriculture ?
C'est plus rare que ça.
Est-ce
d'ailleurs.
Que c'est quelque chose ?
Luthier.
Il a quand même été fait chevalier des arts et lettres, voyez-vous.
Est-ce que c'est un métier qu'on pratique depuis très longtemps ?
Oh oui.
Relieur de livres. De livres anciens.
Alors, relieur de livres, non.
Il fait les enluminures.
Non.
Il n'a pas besoin d'une technique moderne.
Oh, j'imagine que la technique s'est modernisée depuis.
Il travaille de la pierre.
Vous avez dit ?
Graveur.
Graveur, c'est une partie de la réponse. Mais graveur de quoi ?
Sur pierre.
De marbre. De pierre, de marbre.
Non.
Graveur de monuments funéraires.
Ah, graveur de riz.
Pouf.
J'ai vu ça l'autre jour au marché.
Graveur de sel, comme il a Saumur, peut-être.
Mais non, si c'est le plus connu en France, si c'est un métier rare.
Eh ben, graveur de marbre.
Non.
Du cuivre.
Du cuivre.
Du cuivre.
C'est pas la matière.
Des bronzes.
C'est pas la matière qu'il faut trouver.
C'est ce qu'il fait.
C'est ce qu'il fait.
Des choses historiques.
Historique, oui, en quelque sorte.
Ah, c'est
la manière dont il fait qui est intéressant.
En fait, graveur de pièces. Graveur de pièces de monnaie.
Graveur de pièces de monnaie, c'est lui qui grave nos pièces de monnaie, celles dont vous vous servez tous les jours. Bonne réponse de Florian Gazan.
Mais, vous n'en dites pas assez, quoi. Il les grave pas une par une.
Ça non, prend un peu de temps.
Il fait les moules, les prototypes.
Cette remarque est frappée au coin du bon sens.
Vous savez, mais frapper au coin l'hôtel de la monnaie.
Frapper au coin du bon sens, ça désigne la monnaie qu'on frappe.
Oui, c'est lui. Un moule.
C'est lui qui a gravé, par exemple, à l'époque, en 86, le coq et Marianne sur les pièces de 10 francs. Plus récemment, les euros Hercule sur la pièce de 10 euros en argent, ou encore les monuments qu'on voit sur...
Il fait que ça comme métier, parce qu'il ne doit pas se casser le cul, quand même.
Non.
Il
fait une pièce tous les 10 ans.
Boulot, hein.
Non, mais alors, il a la monnaie, et puis avec un petit burin...
Il a un mini burin, puis un mini marteau. Hein.
Il est créateur, pas seulement pour la France, des monnaies de plusieurs pays. C'est lui qui a une réputation internationale, François Rollin. Vous voyez, on fait appel à lui parce que voilà, il sait créer des...
Et c'est lui qui a composé Monnaie, Monnaie. Et... Chanson. Le fric, c'est chic, non ?
Argent trop cher aussi, de téléphone ? Tu vas tous nous les faire ?
Et oui, c'est vrai. C'est
pas, non, mais c'est vrai, fou. Il doit faire ça avec une grosse loupe. Parce que
c'est
mais
petit,
oui,
une pièce.
Parce que c'est petit, hein.
T'imagines les pièces de 1 centime, il a dû galérer, c'est tellement petit.
Non, mais
il fait pas des grosses pièces.
Ariel, une fois qu'il en a gravé une, c'est pas lui qui les reproduit toutes, vous voyez.
Oui, mais il y a des petits sous, des petits centimes qui sont microbes, hein.
Oui.
Et puis dans toute l'Europe, il y a des monnaies différentes. Il y en a des vraiment toutes petites. C'est un vrai boulot.
Ah ouais.
Donc on est content que M. Joaquin Jiménez.
Mais je sais qu'il a un peu foiré le pic.
Joachim Jiménez est présent dans les collections numismatiques, puisque c'est ainsi qu'on dit, françaises, néerlandaises, belges, norvégiennes, danoises, suisses, allemandes, autrichiennes, britanniques, africaines et même américaine.
Ah, bravo,
donc on peut s'enorgueillir que le beau graveur, le plus grand graveur à l'international...
Mais pourquoi il se met pas au billet, ça rapporte plus.
Soit Joaquim Riménez, un Français du Maine-et-Loire. Laurent Dautuile et Robert Villemain sont deux Français dont on retiendra le nom, plutôt les noms, pour quelle raison ? Ce sont les derniers à avoir...
C'est raté parce qu'on ne sait pas qui c'est.
Effectivement, ouais. Effectivement, Gérard.
Oui. Ce sont les derniers Français à avoir fait quoi ?
Gagné Roland-Garros ?
Non. Robert Villemain et Laurent Dautuile.
Ils ont traversé la Manche ?
Du tout.
Ah. C'est quoi ? Un record ?
Ils ont traversé la Manche, ça c'est sûr.
Ah, ils ont traversé aussi l'Atlantique ?
L'Atlantique.
En avion ?
En avion, forcément, ou en bateau à l'époque.
C'est les derniers Français à avoir parlé anglais sans accent ?
Non.
Ou en bateau à l'époque ?
C'est sportif ?
C'est sportif.
Ça a rapport avec l'Amérique ?
Mais oui.
Là, je sais.
Les Jeux Olympiques de 1924 à Paris.
À la rame, ils ont fait ça à la rame.
C'est ça ? C'est les derniers Français à avoir gagné une médaille olympique en France.
J'ai perdu une oreille.
Elle imagine quand elle crie, ça fait une bonne réponse.
Je vais crier.
Sacha Guitry.
Oui.
Sacha Guitry.
Non,
c'est pas elle.
Ça marche pas.
Ouais. Je suis sûr que c'est ça, et vous n'osez pas le dire.
Mais pas du tout.
Et vous n'osez pas le dire.
Il y a plein de choses que je n'ose pas dire.
Donc c'est un exploit sportif.
Un exploit, non, mais c'est sportif.
Ce sont les premiers qui ont traversé l'Atlantique
à la voile. Non, ce sont les
derniers. Est-ce qu'ils sont vivants?
C'est de la natation.
Ah non, ils sont morts.
À mourir?
Ah non.
C'est un rapport avec les Jeux Olympiques ou pas du tout?
Du tout.
Avec la banquise. Bon.
C'est quelle époque?
Ah bah alors écoutez, là on est dans les années 40.
Ils ont fait une course de pingouins. Est-ce que c'est un rapport avec le foot?
Le foot, non.
Un rapport avec la guerre?
40 jusqu'en 50 d'ailleurs, parce que Laurent Dautuile, lui, ça date du 13 septembre 1950.
Ils n'ont pas fait ça ensemble?
Oui. Ah non, non. Pense.
Ah, c'est du cyclisme.
Attention, Madame Diamant a crié. Oui.
C'est de la boxe.
Bravo.
Et voilà. Et ben, c'est les derniers à avoir avant Jean-Pierre Mormec à avoir.
Qui
Alors, c'est de battu par la Motta.
Ils ont combattu la Motta.
Oui. Ils ont été battus par la Motta. Oui.
Alors, ce sont les
adversaires de la Motta.
Ce sont les derniers Français à avoir combattu contre Jack La Motta après Marcel Cerdan, évidemment. Bonne réponse de Titoff et Gérard Jugnot. Ouais. Bah, il a rien dit, Tito.
Non, il a approuvé.
Il a validé. Il est validé.
C'était un piège.
J'ai pensé très fort.
J'en ai marre de dire Florian Gazan.
Non, mais là, il avait rien.
Eh oui, bravo quand même. Vous avez mis tout le monde sur la piste, chère Caroline. Bon. Suite à la disparition de Jack La Motta, on retrace.
96 ans.
Eh oui, 96 ans.
Avec tous les coups qu'il a pris dans la tronche.
Eh oui, on retrace sa carrière, évidemment, sur tous les sites d'information. Mort à 96 ans. On l'a appris ce matin. Il avait évidemment battu Marcel Cerdan en 1949 à Détroit. Marcel Cerdan qui n'aura jamais sa revanche puisqu'il partait pour la revanche en avion quand l'avion s'est écrasé, évidemment. Mais après, il y a eu deux autres Français qui ont combattu contre Jack La Motta. Il s'appelait Laurent Dautuile qui a perdu, mais vraiment au dernier moment. Le Tarzan de Buzenval, on l'appelait. Il a été mis KO à 13 secondes de la fin du dernier round, le Français. Alors qu'il menait au score, et Jack La Motta l'a foutu KO à 13 secondes de la fin du dernier.
Oh, il l'a payé pour se coucher, c'est pas possible.
Comment ça ?
Bah oui, il paraît que c'est très truqué, la boxe.
Tout le monde fait pas comme toi. Hein.
Non. Ils auraient pas attendu le...
Et c'est vrai, vous, on peut vous payer pour coucher, mais... on l'appelle le taureau de le Valois. Je dis ça parce qu'on appelait évidemment Jack La Motta le taureau du Bronx, il faut le rappeler.
Il y a ce film inouï qui s'appelle Raging Bull où Robert De Niro joue ce rôle et pour ça il avait pris je crois une vingtaine de kilos en bouffant des pâtes.
Ça tombe bien parce que c'est la question suivante.
J'ai souvent pris du poids pour les rôles.
Mais tu l'as gardé.
Je l'ai gardé. J'ai jamais reperdu.
Alors c'est vrai que Robert De Niro avait pris du poids pour jouer Jack La Motta dans Raging Bull. Ce sera évidemment la question suivante pour Carmelo Romano qui lui habite la Louvière en Belgique. Qui jouait le rôle du frère de Jack La Motta dans ce film?
Joey Pesci.
Une bonne réponse encore de Florian Gazan.
Vous savez tous. Non. Tu laisses même pas terminer la question.
C'est pas juste.
C'est pas juste.
Mais oui.
C'est
pas juste.
C'était fini. Franchement. Non.
Ouais, mais non, ouais, non.
J'aimerais faire un tour dans ton cerveau.
Ce mec, virez-le.
Oh non, c'est pas possible, il triche.
J'aimerais faire un jour un tour dans ton cerveau. Je te jure, ça doit être intéressant là-dedans.
Tant que c'est dans mon cerveau, ça va.
Non, il y a tellement de trucs que tu pourras pas t'y retrouver.
C'est très encombré.
Tu pourras pas ressortir.
Vous avez fait de la boxe, vous déjà, monsieur Janssen?
Ah oui, bien sûr, de la boxe.
dans les dunes.
Patinage artistique, oui. Non, pas de la, non, pas de la boxe. Et... J'ai fait de l'aïkido, tu vois, quand même.
Ah, ah c'est vrai.
Là, oui.
À quel âge?
Oh, ben, j'avais 18 ans quand je suis arrivé à la fac.
Ah oui?
Oui, parce que j'ai fait la fac, on dirait pas, mais j'ai fait la fac.
Une fac de quoi?
Bah, trois premières années de, d'allemand, voilà, et trois deuxièmes années.
Ah bah, à l'époque, vous étiez avec Mustapha, j'imagine, pour apprendre l'allemand.
Non, c'était pour comme ça, parce que j'étais bon en allemand, je suis allé à la facilité, mais du coup, ça m'a aidé pour ma relation avec Mustapha. Du coup, après, j'ai pu conquérir l'Allemagne, tu vois. Non, je faisais de l'aïkido.
On dirait Hitler. Après, j'ai conquis.
Je faisais de l'aïkido comme ça, et tout ce que j'ai retenu, c'est, j'ai appris à chuter, voilà.
Ah, c'est vrai?
Pas faire mal.
Ah oui,
parce que l'aïkido c'est un truc où tu te sers de la force de l'autre pour machin,
pour tomber,
pour le l'anéantir. Moi j'ai pas anéanti grand monde, je te le dis. Moi on m'a retourné pof. Et à chaque fois je servais de, il fallait le prof, il fallait toujours qu'il ait un exemple pour montrer aux autres. Alors il prenait moi.
Ah ouais ouais.
Bah j'étais sur tous les murs. Donc,
qu'est-ce que tu as fait comme sport alors sérieusement?
Ben sérieusement j'ai fait de l'aviron.
C'est pas vrai.
C'est dingue. Et ça, c'est bien, c'est complet, ça muscle tout.
Ah oui, c'est pour ça que t'es beau comme ça.
Ouais, tu
et puis c'est beau, ça, t'as plein de garçons, je m'étais toujours derrière.
Super musclé.
Tous les garçons étaient devant moi, tu vois. Tu vois genre,
ceux que t'es pas gay.
Le seul truc, c'est que j'ai un petit peu des problèmes quand on me dit à droite, souvent je fais à gauche, je me trompe, tu vois, je dois pas être aligné. Et chaque fois que t'as un bateau qui arrive derrière, parce que tu rames à l'envers, donc t'as pas de rétroviseur dans le machin.
Ah bah,
dans le
ouais, ouais.
Et tu rames à l'envers comme ça, puis on dit bateau, puis t'as le bateau fait nut, tu te retournes, du coup faut faire dans l'autre sens, mais tu sais plus. Alors comme ça. Je me suis retourné plus d'une fois. Si un gars, il rentre chez lui, il sort du bistrot, justement, il est déchiré comme un drap de pauvre. Il est pété.
Ah, ça, déjà, ça me fait rire. Déchiré comme un drap de pauvre.
Oui, il est rond, quoi. Et il a tout juste le temps de prendre son lit en marche, il se vautre et il meurt. Et il comparaît devant Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit, te voilà dégueulasse, saligo, avec tout ce que tu t'es torchonné, c'est pas de purgatoire, l'enfer directement. Et l'autre, il fait, mais mon bon Saint-Pierre, je vais pas si picolé que ça, je ne demande qu'à m'amender. Je pourrais pas me réincarner plutôt que l'enfer, comme ça, vous verrez, je peux m'amender. L'autre, il fait réincarner, il prend un grand livre, il regarde, il fait, il n'y a pas beaucoup de place, il tient, en poule. Oh bah pourquoi pas, c'est mieux que l'enfer. Hop, le gars, il se retrouve dans une basse-cour, à la cambrousse, en train de picorer des graines. Et il picore, et il picore. Et il picore, et il picore.
Elle est surréaliste, cette histoire.
C'est pas fini, c'est pas fini.
Ben non, on voit bien, mais...
Et tout d'un coup, ah, il a mal au ventre. Alors, il dit, tiens, je vais aller voir le coq. Il va voir le coq, et il dit au coq, j'ai mal au ventre. Bah oui, t'es une poule, t'as mal au ventre. T'es en train d'ovuler, tu vas faire des œufs. Tiens, pousse, oh, 10 pouces, pof, un œuf. Oh, il a encore un peu mal. Pouf, oh, encore un œuf. Encore un petit peu, là, pof, troisième œuf. Et à ce moment-là, il prend une grande claque dans la gueule et sa femme lui fait, espèce de saligo, t'es encore en train de chier dans les rats.
Ça vous plaît, Ariel?
Non, pas trop.
Oh, fais pas ta tijorée.
Non, mais je m'attendais à une fin plus charmante.
Moi, c'est pas le genre de la maison.
Vous avez une, monsieur
Fila. J'en ai une courte, assez courte.
Allez-y.
Alors, donc, c'est un instituteur qui est avec ses élèves, et les élèves l'adorent. Et à chaque fin de cours, il leur pose des questions comme ça sur la vie. Quelle est, selon vous, mes élèves, une belle mort? Et là, il y a une petite fille qui lève la main et qui dit, moi, monsieur, alors une belle mort, ce serait de mourir comme grand-père. Ah. Et comment il est mort, grand-père? Mais en fait, il s'est endormi. Ah, c'est vrai que quand on s'endort, voilà, on dit que c'est une des plus belles morts. On s'endort, on ne ressent rien. Et là, il pose la question, quelle est selon vous une mort atroce?
Ben, ce serait de mourir comme les copains de grand-père.
Ah, et ils sont morts comment, les copains de grand-père?
Ben, ils étaient dans la voiture quand papy s'est endormi.
Pour Fabrice Génisson, qui habite Torcy, en Seine-et-Marne, qui a dit « Le ciel est trop haut, la terre est trop basse, seul le comptoir est à la bonne hauteur.
Ah. » C'est un Américain?
Non, c'est un Français.
Jean Carmet.
Pierre Desproges.
En tout cas, un Franco-Suisse.
Frédéric Dard.
Frédéric Dard, wow. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux et de Jean-Jacques Perroni. Pour Jean-Marie Liégeois, qui habite Marchienne au Pont, c'est en Belgique, qui a dit « C'est quand même un peu bizarre que dans le couteau suisse, il n'y a aucune lame qui fasse coucou. »
Un Français?
Un Français, non.
Un Américain?
Un Belge.
Gueluc.
Philippe Gueluc, ah, oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. C'est dans le dernier album de Philippe Gueluc.
Je connais Philippe Gueluc, le chat.
Voilà, exactement. Le chat est parmi nous, c'est son dernier album. Et j'ai évidemment choisi cette citation très amusante. Une autre pour Marie Pulat, qui habite M dans le Nord, qui a dit « Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même.
» Pierre Dac, peut-être ?
Pas Pierre Dac.
Francis Blanche.
Francis Blanche, parfait. Encore une bonne réponse. La citation suivante, elle est pour vous, monsieur Silla, parce qu'attention, là, je suis parti dans la génération, on va dire, plus récente.
Weshden ?
Non, mais quand même, je vais piocher de temps en temps dans les rois du stand-up. Ah. Pour Alain Gilbert, qui habite Vieille Église, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Un jour, vous êtes le pigeon, un jour, vous êtes la statue. »
C'est une femme ?
Ah non, c'est un homme c'est qui un a homme. Dit ça, un Britannique. Chanteur, acteur, humoriste, réalisateur, qui a fait du stand-up.
Peter Sellers.
Non, plus récent que ça.
Boris Johnson.
Boris. C'est quelqu'un qui est né dans les années 60, vous voyez. Bon, alors, vous avez peut-être trouvé ça vieux, mais c'est
Chaplin.
Non, c'est un des maîtres de l'humour, vous voyez.
Est-ce qu'il est Lord?
Ah non, il n'est pas Lord. Non, mais en revanche, il a un nom de marque, si ça peut vous aider.
Un H&M?
Et c'est vrai. Non, mais une marque.
Mark Spencer?
Vous avez dû en sucer plus d'un, hein, Isabelle Mergo.
Oh. Ah, Miko!
Non, pas Miko.
C'est qui, Miko?
Esquimo? Sucette?
C'est la marque d'un Esquimo.
Ah,
Ricky Gervais.
Ricky Gervais, bonne réponse!
Alors, il a fait une. Il y a une série sur Netflix qui passe, qui est formidable, qui s'appelle Afterlife.
Eh ben, vous voyez que vous connaissez Ricky Gervais.
J'adore, Simon.
Bah alors, pourquoi vous ne me le donnez pas avant, Ricky Gervais?
Oh, bah, attendez,
faut que j'en arrive à dire que vous l'avez sucé pour que vous le retrouviez.
Et Afterlife, la série qu'il a faite, écrite, réalisée et jouée dedans, elle est formidable. Elle donne la pêche.
C'est pas lui qui jouait dans Magnum? Non, je confonds les glaces. Une question pour Nathalie Monclair, qui habite Montrouge. Qu'est-ce qu'on peut mesurer sur l'échelle de Scoville? Wilbur Scoville, en 1912, a inventé une méthode pour comparer quelque chose.
Les sexes d'hommes.
Les sexes d'hommes, non, pas du tout.
Je crois que c'est l'intensité des piments.
Mais comment vous savez ça?
Incroyable. Il ne connaît pas le Mont Palatin, il va te connaître un truc comme ça. L'intensité des piments.
Alors là, j'étais persuadé de faire 4 minutes avec ça. Parce que c'est pas en plus dans l'actualité que j'ai pris cette question. C'est dans le fameux livre qui fut un best-seller qui s'appelait Les miscellanées de Mr. Shot. Je sais pas si vous vous souvenez de ce best-seller. Ouais. Comment vous pouvez savoir ça?
Je vais vous le dire. Parce que quand on fait des émissions de télé ou de radio, il y a toujours un jour où il y a un con qui vous fait manger un piment. Parce qu'on rigole bien, parce qu'après on boit du lait, on s'en met partout, etc. Et forcément, on vous dit que le piment est tant sur l'échelle de Scoville. Et voilà. Et c'est comme
ouais,
ça que
je l'ai pris. Moi, j'ai bouffé beaucoup de piment dans ma vie, j'adore ça.
T'as bien dit un con qui t'en fait manger.
J'ai jamais entendu les chaînes de Scoville.
Si, ça mesure l'intensité.
En effet, en 1912, il a inventé, monsieur Wilbur Scoville, une méthode pour comparer le degré de piquant des piments. Plus le nombre d'unités de Scoville est élevé, plus le piment est fort. Ça part du poivron piment doux, qui a donc un degré vraiment très, très, très bas. Ensuite, vous avez le peperoncini piment cerise, qui a un degré de 100 sur l'échelle de Scoville. Puis ça monte. Piment du Nouveau-Mexique, ça c'est un peu plus fort. Piment d'Espelette, encore plus fort.
Ah ouais,
puis le rocotillo, encore plus fort. Puis le piment safran du Mexique, encore plus fort. Puis le Chili Costel Louisiana Hot.
Et la Morora, pour terminer.
Je ne savais pas que quelqu'un aux grosses têtes pouvait connaître l'échelle de Scoville. Bravo encore à Florian Gazan. Vous suivez Chantal tout là pour l'instant?
Tout, j'ai tout suivi. Mais tu sais que Gazan, si jamais on a une aventure ensemble, tu sauras beaucoup moins de choses que ça, hein.
Votre clitoris sur l'échelle de Scoville.
Je vais prévoir beaucoup de lait.
Oh mon Dieu!
Elle est bonne, elle est bonne.
Ah ouais, elle est bonne, ouais. On l'appelle Billy Billy.
Pierre Bénichou, dès que tu dis un mot comme ce que vous venez de dire, ça te dégoûte.
Pourtant,
c'est bizarre,
ça reste du latin. Hein.
Bah, franchement, Pierre.
Mais c'est très bien.
J'ai pas le droit de prononcer clitoris, je suis désolé, ça n'est pas un gros mot.
Non, non. Justement, c'est pire.
Ah, bah comment ça, c'est pire.
C'est ça, c'est ce que je te dis.
Va faire le petit mot comme ça. Le petit bouchon sur la hachette, ça me fait rire. Le clitoris, t'as l'impression d'être chez un vieux pharmacien.
Mais non, ça permet de parler de quelque chose sans que les plus jeunes qui nous écoutent soient...
Puissent comprendre.
Bien sûr, puis après dans la voiture, c'est quoi un clitoris, maman?
Oui, tu connais la petite fille de 10 ans qui prend son bain avec son petit frère? Le petit frère, il a 4 ans, il lui dit « Oh, qu'est-ce que t'as là ?» Elle dit « Mais c'est rien. »« Oh, mais ça doit te faire mal. » Elle dit « Tais-toi, tais-toi. » « Oh, mais qu'est-ce que t'as là ?» À la fin, elle lui dit « c'est rien, mon petit, c'est un coup de hache. » Il dit « Merde, en plein dans la chatte !»
Une question maintenant, tiens, pour Philippe Latil, qui habite le Bourget en Seine-Saint-Denis. Il y a 80 ans pile...
Là, 80 ans.
80 ans.
Oui, mais on ne dit pas 80 ans.
Voilà,
ah,
bon.
Ah, bah non, je suis désolé. Il n'y a pas de S à 20 à 80 ans.
Bah, voilà.
Il y a 80 ans, donc.
Oui. Donc en 1940.
Ils se rencontraient pour la première fois. De qui s'agit-il?
Adolf Hitler et Philippe Pétain.
Oh la vache! Bonne réponse d'Antoine Duléry. Eh ben. Ah, vous avez retenu la date, vous.
Ouais. Et c'est marrant parce que j'y ai pensé, je suis allé à la gare de Montoire il y a très peu de temps.
Exact, et c'était à
là,
la gare de Montoire.
Là,
pèlerinage.
Cette poignée de main épouvantable.
Pétain et Hitler se rencontraient effectivement à cette date précise du 24 octobre 1940, non pas le 23, c'est demain en fait, mais comme on n'a pas d'émission demain,
ah bah voilà.
Il est perdu. Hein,
je me suis avancé d'une journée, vous voyez. Ouais. On va dire, il y a presque 80
c'est
ans.
C'est pas jour pour jour.
Non, presque 80 ans. Pétain rencontrait Hitler. Bon, ils n'ont pas fait d'enfants. Hein.
Non, heureusement.
Ils s'étaient jamais rencontrés avant, vous êtes sûr de ça? J'ai eu un doute en préparant cette question.
A priori, non, mais je sais pas, je suis pas historique.
Ils s'étaient pas matchés sur Tinder avant?
Non, mais effectivement, c'est une poignée de main qui a
peut-être
été
vous avez joué Pétain, Duléry.
J'aurais bien aimé jouer Pétain. Je suis un des rares à l'imiter. Mon cher Philippe Pétain, je suis content. Mon cher Laurent Ruquier.
Mais quand est-ce aujourd'hui, que vous pouvez la placer, cette imitation?
Je le fais dans mon spectacle tous les soirs. Je fais André Malraux, je fais Philippe Pétain. Parce que je rentre dans les années 40 et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends, tu sais, les trucs, je suis dans la résistance française et d'un coup, je fais Pétain. Je
remarquez,
fais,
moi,
le cœur français, c'est le cœur. Voilà, ce français, vous avez vraiment la mémoire courte. J'ai fait le don de ma personne à la France.
Et après, ça va faire plaisir à quelques-uns qui nous écoutent.
Mais oui.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Et après, je fais Malraux. Rentre ici avec Victor Hugo et Murat. Et toi, jeunesse de France, puisses-tu approcher tes mains de cette face informe qui n'avait point parlé? Ce jour-là, elle était le visage de la France.
Tu imites Laurent Gérard hyper bien.
Il le fait, Gérard? Non, je crois pas. Et je fais plein d'imitations que Laurent ne fait pas, il est le premier à me le dire.
Bah oui.
Comme Claude Rich.
Ah oui, Claude Rich.
Alors voilà, je suis tellement content de revenir pour faire l'émission de Laurent. Voilà, je suis très heureux. Voilà.
Ça, il ne le fait pas. Il ne fait pas Chenet non plus.
Est-ce que vous imitez votre copain Gérard Jugnot?
Oh, très mal.
Un petit peu, mais très mal. Il ne supporte pas que je le fasse. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas le droit, Pépino. Retourne à l'internat. C'est Clément Mathieu. Je n'ai pas le droit.
Oh. J'avais entendu, j'aime bien.
C'est pas si mal. Hein, c'est pas si mal.
Oui.
Il n'aime pas, pas, il n'a aucun humour.
C'est pas ça, c'est que je ne le reconnais pas.
Pourquoi il est resté à la Réunion? Pourquoi il n'est pas resté à la Réunion? Hein? Au lieu de faire chier, on aurait dû le mettre là-bas. Avec Christine Bravo, comme ça, dans les quarantaines. Imagine, ils auraient bouffé du requin. Hein?
Moi, ce que j'aime, c'est quand vous faites Daniel Prévost.
Alors, tais-toi, t'es à chier. ta gueule, écoute-moi. Ruquier, t'es à chier. Péroni, ta gueule. Alcoolique.
Et alors, vous savez.
Tais-toi, ta gueule. J'ai pas fini. Ta gueule, Laurent. Tais-toi. Ferme ta gueule. Vous êtes tous à chier. Tais-toi, ringard. Vous êtes tous des ringards. Tais-toi. Je vous adore, mais vous êtes ringard. Tais-toi. Le public est à chier. Genre.
Et vous savez, cher Daniel Prévost, peut-être vous l'ignorez, mais je vais vous l'apprendre, qu'un des grands amours, une grande histoire d'amour de Christine Bravo, car elle l'a reçue. Peut-être c'est l'invité qu'elle a reçu le plus. Christine, à votre avis, de qui je parle? parmi les acteurs français que vous avez retenu et reçu le plus, un de vos grands amoureux? Pierre Arditi.
Oh, bah, c'était
voilà.
Lui.
Oh, bah voilà, bah voilà, bah voilà. J'aime beaucoup Christine, bravo. Hein, voilà, voilà, voilà. Faut dire tout trois fois hein, quand tu fais Arditi. Voilà, ça va, tu es content, ça va. Alors Antoine Duléry, 1723-1785, quitte cette profession, elle ne veut plus de toi. Voilà, 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 voilà. Je suis très content d'être chez Laurent Ruquier. Voilà, voilà, voilà. Ça peut continuer encore longtemps. Hein, voilà. Faut me laisser maintenant. Hein, oui. Voilà, voilà, voilà.
C'est la journée mondiale
voilà,
du bégaiement.
Voilà. Alors, si Gazan s'y met en plus, alors là, voilà.
Allez, il est agacé, ouais, tout le temps.
Tout le temps agacé.
Et Patrick Chenet?
Ah ben voilà, c'est... Il n'est pas agacé, mais lui, il fait des...
Ah oui
ça, c'est marrant, j'aime beaucoup le... voilà. Alors, un jour, c'est marrant, parce qu'il y a un type, je raconte une anecdote très courte, un agent m'avait proposé une pièce pour moi et Mathilde Seigné, une pièce à deux personnages. Alors, je l'ai lu, moi, je ne l'ai pas fait, et j'ai appelé cet agent... en me faisant passer pour Patrick Chenet. Et ça a donné ça. Je fais, bonjour, c'est Patrick Chenet. Ah bonjour Patrick. J'ai appris que vous avez proposé la pièce à Antoine. Malheureusement, j'ai déjà les droits. Ah pardon, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Finalement, en plus, j'ai décidé de donner le rôle principal à Loana. Alors, t'avais l'agent qui me dit, très bonne idée. Et alors, j'ai demandé en plus à Vincent Lagaffe de faire la mise en scène. Et ça continue. C'est très original. Et on va créer la pièce à Cachan. Ça a duré 10 minutes. Il a cru que c'était Patrick Chenet.
Et Alain Delon, comment il va, Alain Delon?
Pour le faire muet, alors c'est un peu compliqué. Alain Delon est fatigué. Alain Delon, je ne sais pas où il est. Alain Delon est à Douchy, probablement, en train de prendre une douche. Voilà.
Bon, quand même, c'est la première fois que je vous entends faire Gérard Jugnot. J'adore.
J'adore, mais je peux pas, mes pinots. Je peux pas. Retourne à l'internat.
Ce mot signifie gâteau en latin, et un scientifique vient de nous dire qu'il valait mieux ne pas en manger. De quoi s'agit-il ?
Un scientifique vient de nous dire que ce gâteau est mauvais pour l'organisme ?
Alors non, vous n'avez rien compris.
Le nom.
Caroline, ce mot signifie gâteau en latin. Ce D'accord. n'est pas pour autant que c'est un gâteau, vous voyez, D'accord. chère Caroline.
D'accord, bah, enfin, il aurait été logique de donner à un gâteau un nom de gâteau.
Gatus.
Ah, alors Gatus. Attends, on va pas tout comprendre.
Pépitus, Pépitum,
Pépito. Vous occupez pas d'elle, finissez.
J'ai du mal parfois, vous savez, ici. Ce mot, on cherche un mot, un nom si vous préférez, mais un mot, c'est un nom commun. Ce mot signifie gâteau en latin. Mais un scientifique, un professeur, un chercheur vient de nous dire que franchement, même si certains le font, il n'était pas conseillé d'en manger. De quoi s'agit-il ?
C'est un nom en us ?
En us, non.
Les crottes
est-ce
de nez ?
Est-ce qu'il s'agit... Est-ce que
c'est... C'est pas bête, c'est pas si loin de ça.
Est-ce que c'est les ongles ?
Les ongles ? Les ongles, non.
Mais attendez, les est-ce que c'est... Gâteau, il y a un accent circonflexe, donc ça vient du latin. Il y a un S, gastéro quelque chose.
Non.
La colle Cléopâtre ?
La colle Cléopâtre, non.
Est-ce que c'est un nom de marque qu'on cherche ou c'est le nom d'un aliment ?
Enfin, non, je vous ai dit que c'était un nom commun, donc c'est pas un nom de marque.
Il faut pas en manger parce que ça drogue. C'est
non,
la drogue.
Pas du tout.
Est-ce que c'est pas la mode
Est-ce que c'est un végétal ?
Un végétal, non.
Est-ce que c'est pas la mode de ces... C'est pas le poisson japonais qui, quand on a mal découpé...
Le tofu !
Le fugu. Fait mourir.
Pas du tout.
Oh.
Mais quand vous disiez les crottes...
C'est pas un poisson,
c'est pas une algue ?
Non.
Non, mais disiez les crottes de nez, c'est pas loin, donc...
Je sens que Clémence Chauvet, qui habite Sucé-sur-Erdre...
Ah bah tu penses...
Oh, non, Sucé.
Oh, ah bah voilà, évidemment...
Ah, ça c'est un pays où bah, on doit bien...
Sucé-sur-Erdre, c'est mieux que flirter
que sur le béton,
canal.
Oui.
C'est mieux que flirter sur...
C'est agréable s'il fait beau.
C'est en Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre.
Si c'est pas loin...
Parce que moi je connaissais ploter sur gazon...
Si c'est pas loin des crottes de nez...
Mais Sucé-sur-Erdre, c'est vachement mieux.
Madame Chauvet. Clémence, on va l'appeler Clémence, ouais. Va sûrement toucher 300 euros parce que vous êtes très loin.
La cire dans les oreilles.
Vous mangez la cire que vous avez dans les oreilles. Vous.
Ça oui, arrive. Bernard, il marche en autarcie.
Alors, c'est l'autre côté abeille.
Mais le sperme.
Oh, écoutez.
Je réfléchis à ce qu'on ne doit pas manger, mais.
Est-ce que c'est un animal?
Un animal, non. Elle réfléchit à ce qu'on ne doit pas manger et qu'on mange quand même, et elle dit le sperme. Écoutez. Franchement, Caroline.
Tu m'invites ce soir?
Je comprends mieux pourquoi il dit aïe, Pépito, c'est parce que tu mords.
Hein. Est-ce que c'est une sécrétion humaine?
Si je peux passer en entrée plutôt qu'au dessert.
Mais méfie-toi.
Est-ce que c'est une sécrétion humaine?
Sécrétion humaine, c'est pas le mot.
Mais c'est sur nous, c'est quelque chose qu'on a
sur nous. Est-ce que c'est pas la mode? Vous savez, beaucoup de gens prônent l'urinothérapie.
Ah non. Écoutez, Caroline, je pensais vraiment que vous auriez trouvé la réponse.
Ah, pourquoi? Ça me concerne plus que les autres?
Oui, quand même.
Le sein doux.
Quelle horreur. En plus, il y a le sein dur.
Le fromage, oui, le fromage.
Le fromage, mais non, écoutez. Ça se ment. En tout cas, c'est un chercheur de la Northwestern University qui vient de dire non, 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 n'en mangez pas, ce n'est pas top d'en manger. Et ce nom vient du latin et ça veut dire gâteau, pourtant. Et il s'agit... vous avez 30 secondes.
Les cheveux.
Les cheveux. Ah oui, c'est vrai que c'est pas conseillé de manger les cheveux. Non. Qui mange les cheveux?
Je sais pas, visiblement, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé manger. Donc je cherche toute direction confondue.
T'en manges des trucs, toi. Hein. T'es pas une femme, t'es une poubelle.
On comprend mieux maintenant.
Il y a un truc qui me...
Tout ce qui passe, elle bouffe.
Il y a un truc qui...
C'est un aspirateur.
Vous avez dit que c'était une mode, en fait.
Oui, c'est une mode, et ce docteur, justement, veut mettre fin à cette mode.
C'est pas la barbe à papa, c'est
oh
pas...
Oh non, la barbe à papa.
La barbe à papa.
Vous savez, ce truc... Mais les poils, oui,
c'est le truc naturel, la barbe
j'aurais
à papa.
J'aurais pas dû dire ça, bordel.
Alors, le mot qui signifie gâteau en latin, c'est le mot placenta. Puisque vous savez que certaines femmes mangent leur placenta.
Ah, mais moi, à la maison, c'est le chat qui l'a mangé.
Ah, mais je vous jure.
Les chats font ça.
Je vous jure que c'est vrai. Il y a une mode chez certaines femmes, américaines particulièrement. Oui. Et dans les magazines branchés, on leur dit que c'est plein de vitamines, que ça va leur permettre d'éviter le baby blues. Et ce chercheur dit non, mesdames, ne mangez pas le placenta quand vous venez d'accoucher. Ce n'est pas une bonne idée. Franchement, je pensais que vous auriez trouvé.
Oui, parce que c'est vrai. Ça arrive très souvent que. T'arrives dîner chez des gens et qu'elles te disent vous avez fait un petit placenta, dis non pas aujourd'hui. Non, je veux dire, mais
j'avais
c'est pas
choucroute.
Un truc très courant quand même.
Mais on est obligé. C'est la mode.
C'est la mode.
Je vous le dis, Pierre, il y a des femmes qui mangent leur placenta.
Il y a des terrines de placenta. Bien sûr.
Tu l'attends pendant 9 mois.
Tu sais que dans la choucroute, c'est pas mauvais. Hein.
Non, je vous jure, Pierre.
Oh. Non, mais de toute façon, les Américains ont des modes... qui sont quand même débiles.
Écoutez, en tout cas, voilà 300 euros qui vont partir à sucer sur herbe. Ce qui est toujours mieux que de bouffer du placenta. Quel est le point commun entre l'ours, le chameau et la girafe?
Ils ont des poils tous les trois.
Ça, c'est bien.
Génial.
Et t'aurais pu rajouter... Oui. Et t'aurais pu rajouter mon beau-frère.
Ariel.
Mais t'imagines, c'est
vraiment... Il y a des tas d'autres animaux qui ont des poils.
Oui, mais ceux-là, en tout cas, ils sont poilus tous les trois.
C'est un rapport avec la reproduction. C'est pas le temps de gestation.
Non, du tout.
C'est le cou.
Le cou, non.
Les pattes. Ils sont amples.
C'est-à-dire
ils marchent inversés. Les deux pattes de même côté.
Excellente réponse de Laurent Baffy. L'ours, le chameau et la girafe vont l'amble.
Oui, mais attention, l'ours n'a que deux pattes. Qu'est-ce que tu
veux dire? Oui, bien sûr.
Prends 2 minutes et recompte.
Ouais. Et pour compter comme ça, t'as été à l'école avec Christine. C'est pas possible.
Mais le haut, c'est comme des
mais
petits bras.
Quand ça marche à quatre pattes.
Mais il se déplace à quatre pattes.
Bien sûr, les petits bras de l'ours. C'est bien connu.
Non, mais écoute, les autres ne marchent pas sur deux pattes. Tandis que l'ours, oui.
Mais il marche à quatre pattes.
Mais il marche pas sur deux pattes. Elle en a vu qu'au cirque.
Le chameau, il est sur quatre pattes. La girafe, elle est sur quatre pattes. Oui. Jamais sur deux. Tandis que l'ours, il est sur deux. Non.
Mais non,
il marche sur quatre pattes.
Quand il est très en colère.
Non.
Il court pas sur deux pattes, l'ours.
Quand il est très en colère, qui vient vers vous et qui vous dit combien j'ai de pattes.
Non, mais je crois que dans sa tête, comme elle s'imagine pas la girafe à deux pattes.
Non.
Parce que la girafe, effectivement, elle se lève pas avec les deux pattes. Mais l'ours à quatre pattes.
C'est que l'humanité est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'elle marche à deux pattes. Justement, si l'ours avait fait ça, elle serait plus intelligente que nous.
Mais enfant, Ariel était très méchante. Elle arrachait les pattes de ses doudous. C'est pour ça qu'elle.
En tout cas, ils vont à l'amble. Alors, il faut expliquer ce que cela veut dire exactement, ouais. C'est ne pas avoir la même démarche que les autres animaux. Ça donne une allure un peu atypique à ceux qui marchent à l'amble. C'est le cas de l'ours, c'est le cas de la girafe.
C'est dur, hein, c'est si sexy on essaye comme elle marche.
C'est hyper sexy.
Et du chameau, il marche en fait.
Deux pattes en même temps de chaque côté.
Exactement, les deux pattes en même temps de chaque côté. Oui. Voyez.
Mais je vais vous apprendre aussi des choses sur les griffes.
Qu'est-ce que vous voulez me dire sur les griffes?
C'est voilà un point
commun. Les griffes arrière, hein, parce qu'on est d'accord qu'il n'y en a pas à l'avant.
Hein. Ouais, ils ont pas de pattes.
Les griffes, quelles griffes? Dior, les griffes. Hermès.
Non, alors, les griffes et des ours et des chameaux et des girafes.
Ah, les griffes de la girafe.
Les griffes de la girafe. Ouh, est très méchante la girafe.
Les griffes de la girafe. On ne se méfiera jamais
pas tomber dans les griffes d'une girafe.
Il y a des sabots, mais tu m'as l'air.
Alors, le sabot, bon, le sabot.
C'est comme le grand coup du serpent.
Mais juste pour vous dire que ce sont des, enfin, des extrémités qui ne sont pas innervées.
Oui, et toi, bon, tu nous innerves.
En tout cas, cher Laurent, manifestement, vous pouvez aller donner des leçons de zoologie chez Ariel Dombal, elle en a besoin. Hein.
C'est elle qui m'en donne pour l'instant, parce que je vais revoir ma connaissance des ours. J'étais persuadé qu'ils avaient quatre pattes, j'aurais mis un billet là-dessus.
Quoi, la valise qui pue, monsieur Junior?
Non, c'était un sketch, tout ça. C'était un jeu, le jeu de la valise qui pue. Mais on mettait, que des choses périssables dedans, donc il fallait très vite se dépêcher. Parce que dans le studio, ça commence à sentir à fort, quoi.
Mais je crois qu'on peut dire à Gérard une chose, c'est que vous avez été l'un des deux grands acteurs de Tandem, si je ne me trompe.
Oui.
C'est extraordinaire parce que ce film qui raconte la vie d'un animateur et de celui qui l'accompagne, le technicien, etc. Moi, je l'ai vécu exactement et je ne sais pas comment le réalisateur a pigé tous les trucs qu'il montre, car c'était très exactement ça.
Il faut le dire quand même, monsieur Fabrice, vous avez beaucoup voyagé à travers la France, mais aussi parfois de façon virtuelle.
Comment cela virtuel?
Ah bah écoutez, je me souviens. Alors là, je ne voudrais pas.
Oh, il déterre un cadavre.
Non mais fallait pas venir.
Je ne voudrais pas dénoncer.
Oui.
On va dire les tricheries de la radio parfois, mais c'est vrai que parfois il y avait un peu tromperie sur le déplacement.
Non, il y avait jamais tromperie, mais il m'est arrivé de ne pas pouvoir me rendre à l'endroit
parce
où je devais aller.
Je vais vous expliquer.
Expliquez-moi. Je le raconte. Me rappelle pas.
Je le raconte dans mon livre. Dans mon livre Radiographie, quand j'ai raconté mon amour de la radio et l'auditeur de RTL que j'étais enfant et qui vous écoutait, cher Fabrice, à l'époque de la casse 13h, fameuse émission où les gens criaient « Vive l'Empereur !» Et moi, je me souviens, ce jour-là, j'étais, je crois, à Annecy ou à Gérardmer avec mes parents. J'avais 13 ou 14 ans à cette époque-là. Et je vois des affichettes un peu partout dans la ville. « Fabrice, la casse 13h à Gérardmer aujourd'hui à 11h. » Ah, moi, évidemment, je dis à mes parents « Je veux absolument y aller, je veux absolument y aller. » À 11h, place machin, à Gérardmer, Fabrice, la casse 13h. Et moi, le gamin que j'étais, je file, évidemment, sur la place de Gérardmer, place de la ville. Et là, il y a un petit podium et il y a un monsieur qui est sur le podium mais qui n'est pas du tout Fabrice. Fabrice, il est à Paris.
Non, oui, alors.
Au chaud.
Un salaud. Briser les rêves d'un enfant. T'as vu le résultat?
Dites-moi que c'est pas vrai ce que je raconte, monsieur Fabrice.
Je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement qu'à
l'époque. J'étais en pleurs à cause de vous.
J'en suis navré, mais ça n'était pas une tromperie. J'étais 3 jours à Paris, et j'étais 3 jours en province. Et vous êtes tombé sur un jour de province, vous n'étiez pas.
C'est vrai, c'est pas de bol. Hein.
Et moi j'étais en larmes à Gérardmer.
Voilà. Il est arrivé sur la place, il y avait un gros poste de radio.
Ouais. Absolument, et ça qui est fou, c'est qu'il y avait le podium, des tas de gens devant le podium, mais personne sur le podium, juste là, une sono, et vous depuis Paris qui disiez « Bonjour à tous, bonjour à toutes », puis nous comme des cons « Vive l'Empereur !» Il était même pas là que là.
Oui, non mais...
Mais on a tous fait ça.
Si on fait ça, c'est vrai qu'on peut faire une tournée. Les grosses têtes peuvent faire une tournée dans toute la France simultanément en plus.
Ah, mais je peux raconter quelque chose qui se passe, qui est absolument incroyable. Actuellement au théâtre, c'est pas de la promo parce qu'en plus c'est complet, on peut plus avoir de place. Gaspard Proust, qui est sur scène en ce moment à la Comédie des Champs-Élysées, démarre son spectacle des coulisses. Il devait faire 2-3 minutes en coulisses. On ne le voit pas. La lumière s'allume et on ne le voit pas pendant normalement 3 minutes. Puis il dit des conneries en coulisses. Puis ça marche tellement bien que maintenant il en arrive à faire un quart d'heure sans entrer en scène.
Bientôt il fera tout le spectacle.
Et on se demande, si on va pas faire plusieurs dates de tournée le même soir. Tel tellement ça fonctionne et tellement ça cartonne sans même qu'il soit sur scène.
Finalement, c'est comme les Daft Punk, vous croyez qu'ils y vont au concert?
Vous en pensez, cher camarade grosse tête, mais je trouve qu'on l'entend bien, Fabrice, pour être à Genève comme il est. Une question pour Fabrice Goulet, qui habite Dianan-sur-Chêne dans le Calvados. Tout le monde connaît le nom du gendre de Marcel Denamiel, qui a repris le commerce de son beau-père en 1946. De qui s'agit-il ?
Est-ce que...
C'est une marque connue.
Une marque connue, oui.
Monsieur Michelin. Et donc c'est lui qui a fait prospérer
c'est
la marque...
C'est électroménager ?
Pardon ?
Électroménager.
C'est électroménager ?
Électroménager, non.
C'est alimentaire ?
Est-ce que c'est le bon marché ?
Alimentaire, oui, mon cher Watson.
Picard ?
Picard, non.
Franprix.
Pardon ?
Franprix.
Franprix. Oh.
Fauchon.
Franprix,
c'est pas un
monsieur. Monsieur Franprix, vous ?
Fauchon.
Bah, Marcel pour... Franprix.
Est-ce qu'il pourquoi existe encore le...
Enfin, bah non, vous voyez bien que prix, Monoprix, Prix Unique, oui, Franprix...
Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'un monsieur
c'est
Prix
pas
Unique ?
William Sorin ?
William Sorin ?
Non.
Non.
Eh ben, c'est Félix Potin.
Félix Potin, non.
Oh. Attendez, on cherche quoi, une conserve ?
Est-ce que ces magasins existent toujours ? Laurent ?
Moi, j'ai rien. Vous avez suivi l'affaire ? Moi, j'ai pas compris ce qu'on cherche. Alors, le petit navire ?
On cherche le nom, mais il n'y a pas un monsieur petit navire.
D'accord.
Bah, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
On cherche le nom.
Non, c'est monsieur Robuton. Voilà.
Le nom et le prénom, même, hein, d'ailleurs, puisque les deux sont devenus.
On le trouve chez tous les commerçants ?
Quoi donc ?
Mais ben... non, mais c'est un commerce. Laurent, est-ce qu'il y a toujours ces boutiques en France ?
Ah, il n'a pas de boutique.
C'est Jacques Vabre.
C'est des colons.
Jacques Vabre. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Eh oui.
Voilà.
C'est la Transat Jacques Vabre en ce moment.
Bien sûr.
59 bateaux qui sont partis du Havre vers le Brésil, vers Salvador de Bahia.
Bah ouais.
En tout cas, ils vont mettre peut-être 13 jours pour traverser l'Atlantique. Jacques Vabre, c'est le nom de la Transat, mais c'était vraiment le nom d'un monsieur.
Mais oui.
Jacques Vabre.
Ils sont trop difficiles, ces Jacques Vabre. Tu ne te souviens pas, la publicité ?
Ah oui, El Gringo, bien sûr.
El Gringo, non, ils sont trop difficiles.
C'est vrai que Nespresso leur a donné un petit coup de vieux avec George Clooney, quand même.
Un jour, on vous appelle.
On
vous appellera peut-être, monsieur Galliana, pour faire de la publicité pour un café. Vous avez déjà peut-être fait de la pub ?
Non, pas encore.
Je vois bien faire un café.
Bah voilà, c'est proposé.
Un café espagnol.
Tu veux pas commencer à mener mon ferrand là maintenant ?
Vous voulez un café ? Quelqu'un veut un café ?
Non. Isabelle, elle a
fait... Méchant, moi ?
Isabelle, elle a jamais fait de pub.
Comment ça, vous êtes...
Oui, mais elle n'est pas passée.
Elle n'est jamais passée, votre pub ?
Jamais.
Ça, mais t'as fait une pub pour quoi qui n'est pas passée ?
La lessive Fresh Start.
Moi déjà, je décerne un prix au mec qui t'a choisi pour la lessive Fresh Start.
Non, mais je l'ai tournée et tout. Ils l'ont testée dans le sud de la France et les gens disaient qu'est-ce qu'elle dit. Alors, il fait que Colgate m'a appelé parce que c'était Colgate qui faisait ça en me disant on va vous doubler. Et j'ai dit me doubler ? Bah, que moi, mon corps, il est la voix de quelqu'un d'autre. Jamais. Et donc, ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Et donc, je l'ai dit non.
Oh là là, mais comment j'aurais dit oui, juste pour que quelqu'un te double ?
Ouais, mais moi, je ne voulais pas.
Bah donc, mais ils doublent toujours.
Donc, on l'a vu, c'était...
Ils doublent la telle publicité que j'ai faite, ils m'ont doublé. C'était une publicité pour de soutien-gorge. Ils ont doublé pour les nichons.
Oui, elle a été testée dans le sud de la France.
Dans Ultra Bright, c'est pas vous qui plongiez d'une falaise avec
un... Oh là 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 là, le mec.
Avec une rose dans les, entre les dents.
Oui, c'est moi, ça. C'est tout moi, tout moi. Ça replonge.
Tu plongeais entre deux rochers comme ça, à Pique.
Ça en a fait rêver plus d'une, ça, oui. C'était il n'y a pas longtemps, c'était en 32.
Il faut quand même le dire à monsieur Galliana, Pierre Bénichoux a été plus beau bébé d'Oran. Hein. Ça, je ne mens pas, Pierre. Hein.
T'as pas ma photo chez toi sur
non,
une
non, non. C'est pas ça. Je vous voyais depuis Alicante comme vous étiez le plus beau bébé d'Oran.
Oui.
Il a été dessiné parce que la photo n'existait pas encore.
Ben voilà.
Non, c'est Nadar qui l'a fait lui-même.
Plus beau bébé d'Oran et donc il a été pris.
Oh, c'est... le titre pourri.
Pourri.
Et c'est donc.
C'est Pierre... plus si je suis né à Oran.
Ah bon, pourquoi ?
Ah, parce que j'ai des doutes sur ma mère. J'ai pas l'habitude de dire du mal de ma mère.
Mais ta mère, elle n'était pas allemande.
Et non, c'est là où elle avait du mérite. Elle était française. Et elle aimait les Allemands.
Bien compris. Ah, moi, j'ai été le plus beau PD de Bordeaux.
Qui est con? Non mais Pierre, quand il était bébé, Pierre Bénichoux, il a été choisi pour la pub. C'est lui aussi, lui, c'est lui certes qu'on voit.
Cadom, bébé Cadom.
Quand il a 20 ou 30 ans, certes c'est lui qu'on voit se jeter d'une falaise avec l'œillet entre les dents et plonger pour la pub.
Et oui, et
non. Et
maintenant il peut jeter les dents avec la rose.
L'exposition universelle de 1904. Ça se passait à Saint-Louis, cette exposition universelle de 1904. Et c'est là-bas, pour la première fois, qu'on a vu une invention gastronomique. Laquelle ?
Une invention.
À Saint-Louis, où ça ?
À Saint-Louis, en France.
Hein. Mmh. Ah, en quelle année ?
Saint-Louis en France, c'est où Saint-Louis ?
Non, je ne suis pas sûr, remarqué en France.
Non, c'est pas Saint-Louis plutôt aux États-Unis ?
Ouais, Sénégal ?
Saint-Louis ? Saint-Louis ?
Dans, vous avez dit
en tout cas, c'est une invention gastronomique française.
Une recette ?
Une recette.
Genre la choucroute, un truc comme ça ?
Non, non.
Qui est devenu quelque
chose ? En 1904 ?
Non.
C'est devenu un truc.
Bah,
si.
Non, mais attendez.
Faut savoir.
Il faut retrouver le plat, il faut retrouver quoi?
Déjà qu'on sait pas si c'est en France ou aux États-Unis.
Alors,
il donne la date, il sait plus. Mais c'est le bordel!
Bientôt, ce sera pas une
recette. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange chaud?
Ça se mange. Est-ce que c'est chaud?
Mais c'est rien!
C'est pas la tarte tatin.
C'est chaud et c'est dans le Missouri.
Le hot dog!
Ah non, non.
C'est salé.
Ah, c'est pas salé.
C'est un accompagnement ?
C'est sucré.
C'est une quiche ?
Le ketchup.
Mais faut dire que j'ai eu un traumatisme avec ça, alors c'est pas ça aussi que...
Vous en avez bouffé quelque temps ?
Les salsifis ?
Non, cet été, il m'est arrivé un malheur avec...
Avec une saucisse.
Non.
Ça, c'est alors ça, c'est fino, hein. C'est fino.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est un dentiste. Tiens, je suis en train de, regarder ça, vu ce qui m'est arrivé... Parce que pour dire, j'ai perdu une dent...
Des pop-corn.
Cet été. J'ai perdu une dent à cause de ça.
Ah, mais c'est plus dur que ça, alors.
Des chouchous,
des chouchous. Et la dent, vous l'avez mis sur l'oreiller pour la petite souris.
Non, mais j'étais en train de parler. C'était un déjeuner. Il y avait du monde et tout. J'étais emmerdé. Hein.
Du nougat. T'étais affamé.
Oui, il a raison.
Du nougat.
C'est pas du popcorn. D'accord. Hein.
C'est pas du popcorn. C'est pas du nougat.
Donc c'est dur. Donc c'est forcément dur.
C'est pas dur. C'est ça qui est dingue.
C'est les chamallows. La guimauve.
Pardon.
Les chamallows.
Les chamallows. Non.
La guimauve.
Chewing gum.
Non. À l'exposition.
La barbe à papa.
De la barbe à papa. Bonne réponse.
Bravo Stéphane.
De qui?
Stéphane Plaza. Oui.
Laurent, vous êtes pété une dent en mangeant la barbe à papa.
Oui, monsieur.
D'accord.
Oui. Mais non, mais la barbe à papa, c'est pas que ce soit dur.
Non.
Mais c'est que ça colle.
Non, ça colle pas trop.
Ah, si.
Après, vous avez peut-être mangé le bâton aussi. Hein.
J'avais une dent qui devait plus très bien.
Elle
devait pas être collée, votre dent.
Et paf, d'un seul coup, je sors la barbe à papa, je vois la dent dedans.
Vous avez peut-être ripé en sortant violemment.
Dans quel type de déjeuner très important, on mange tous de la barbe à papa en fait?
Bernard, est-ce que vous avez regardé Stevie dans Capitaine Marlowe?
Oui, j'ai adoré.
C'est pas
C'était un petit rôle, mais t'étais vraiment bien.
Merci, mon cher.
Ah ouais,
vous êtes vraiment un hypocrite. Hein.
Pourquoi?
Bah parce qu'on a tourné cette émission mardi après-midi avant que ce soit diffusé.
Ah bah, j'ai cru le voir, alors.
Ah non, franchement.
Mais alors, t'as été dirigé par José Dayan ?
Oui. Alors, elle est impressionnante.
Je l'ai croisée l'autre jour, on dirait Borloo. Oh, elle a une tronche dedans.
C'est ça, la tête de Borloo et le corps de Bernard.
Ah non, arrêtez. Elle est adorable, elle est charmante.
Vous aviez des scènes avec qui, alors ?
Eh ben, avec Sylvie Testu, Christophe Lambert et Corinne Maziero.
C'est pas vrai.
Oui.
Ça doit quand même être impressionnant.
Ah bah, évidemment.
C'était quoi ton texte ?
Tu disais quoi, monsieur est servi ?
Bonjour, madame.
Le niveau d'acteur qu'il doit avoir pour que Stevie soit embauché. Tout le monde s'est fait embaucher, sauf moi.
Hey, tu peux pas être embauché, t'es déjà une débauchée.
Mais tu joues quoi comme rôle exactement?
Je sens, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que Marcella réclame. Elle veut jouer la comédie.
Mais tu sais que tu changes, Marcella. Je t'ai connue un peu, tu vois, je sais pas, un peu avachie dans ton fauteuil. Et de temps en temps, disant, mais qu'est-ce qu'elle a dit que j'ai pas compris? Et là, je sais pas ce qui t'est arrivé. Ça doit être les médocs, parce que... Je retrouve vraiment une passionnariat, mais méchante.
Elle est presque aussi méchante que toi.
Ouais, oui, plus
sauf
méchante.
Sauf qu'elle, c'est les médocs, elle, c'est le. Excellent. Bon, allez, il est temps de placer une première citation, parce qu'on me dit quand même, on me signale en régie que le niveau culturel de cette émission doit garder un certain standing.
Oh, bah là, il n'y a pas de problème.
Voici donc la première citation.
C'est pas le bonjour.
Et ce sera pour Sébastien Lenouvel. On va faire dans l'efficace dès le départ, allez-y. Vous allez voir.
Ah, j'ai une idée.
Pour Sébastien Lenouvel, qui habite Stockholm, qui a dit « Personne autour de moi jamais ne s'est rendu compte à quel point j'aurais
Chantal
pu... »
là-dessous.
« À quel point j'aurais pu être malheureux si je l'avais voulu. »
Sacha Guitry.
Et ben voilà.
Je voulais juste te dire que j'étais vexée sur Sacha Guitry parce que maintenant, comme vous doutez que je trouve, vous prenez l'accent de Guitry pour me faire trouver. Ah, alors ça commence à être.
C'était
très...
la voix de Sacha Guitry, ça.
J'ai cru que c'était là-dessous, moi.
Bah oui, j'ai essayé de faire.
On aurait dit votre imitation de Chantal là-dessous, c'est pour ça.
C'est parce que c'est pas loin l'un de l'autre.
Oui, c'est vrai, c'est pas mal.
C'est de la même époque.
Chantal là-dessous, je suis en train de répéter avec elle en ce moment et je vous assure que. Comme elle prononce plus le masque, on comprend rien du tout. Rien.
C'est une jolie promo pour la pièce.
Mais ça donne envie. Ça commence quand ?
Une citation pour Hortense Lefebvre, qui habite Villemoison-sur-Orge, dans l'Essonne, qui a dit...
Villemoison. Pardon. Il y a deux S, c'est Villemoisson sur Or.
Ah, vous connaissez ?
Oui, je connais, je viens du 9-1. Yo, spécial dédicace, vas-y, tranquille. Vas-y, l'Essonne. L'Essonne représente, massis pas les os. Merci.
Maman, je veux rentrer à la maison.
Mais il est fou comme un lapin.
Villemoisson sur Or. Ah, vous avez dit fou comme un lapin ?
Oui.
Eh bien, ça tombe bien, regardez quel enchaînement, c'est ça les grands esprits.
Mais quel talent.
Qui a dit, si ça ressemble à un lapin, que ça marche comme un lapin, et que ça bouge comme un lapin, il faut le laisser encore un peu plus dans le micro-ondes.
Oh. C'est Violette.
Monsieur Duracell.
Est-ce qu'il est mort ?
Il est mort, oui.
Il est mort. Voilà.
Il y a longtemps.
Ah. Métayer.
Non, il est mort très jeune. Il est mort à 50 ans.
Laurent Violet.
Laurent Violet. Ah, oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est seulement dans le 8e épisode qu'il répondit à la question par cette phrase « Je veux réduire la fracture des générations ». Évidemment, je vais vous demander de quelle question il s'agissait et de quel héros il s'agissait. La phrase donc qu'il a répondu quand on lui a posé une question que tout le monde se posait, c'est « Je veux réduire la fracture des générations ». De qui s'agit-il ?
Huitième épisode quoi,
d'une série.
D'une série américaine.
Game of Thrones, non, c'est pas Game of Thrones, non.
Américaine.
Ça fait moderne, vous voyez. Ouais, François-Olivier Gisbert, c'est bien. Pierre, vous connaissez Game of Thrones ?
Non, je vois, ça, on me le propose à la télévision, on me propose tous les trucs.
Ah oui.
Mais je ne le regarde pas, non. J'ai regardé un très bon feuilleton, très vieux, qui s'appelle Les Beaux Mecs.
Un feuilleton,
comment ça s'appelle ?
Ah oui. Non, parce que c'est vrai.
Ah, parce qu'on dit une série maintenant. Putain, oh la vache.
Mignon.
Oh, il a dit un feuilleton, il est vieux.
Mais c'est mignon, là. Feuilleton.
Connasse.
Un feuilleton.
Un feuilleton, oui, un feuilleton, on dit un feuilleton.
Connasse, c'est pas un feuilleton, c'est une série.
Attendez, Les Beaux Mecs, vous avez regardé, ça existe.
J'ai vu Yannick Aimé.
Ah oui, Yannick Aimé avec son vélo moteur.
Et Jacques Croquant.
Tu te rappelles du générique ?
Arrête.
C'était Yannick Aimé. Bah oui, les jeunes ne peuvent pas comprendre.
Et les sales séries.
Moi, j'aimais bien, yeah. C'était un peu violent, l'homme
les
de Picardie.
Les sales séries, tu connais
le... Non, c'est pas ça.
Les mystères de l'Ouest, non.
Voilà, c'était nul ces trucs.
Mais bien sûr, c'est
génial les mystères de l'Ouest.
C'est pour le trafiquant de drogue qui a eu la télévision très tôt, ça. Moi, j'ai eu la télévision, mon premier truc que j'ai vu, moi, c'était Guy Lux. Avant, je regardais.
Oh non,
pas.
T'as vu Jean Noël, toi ?
Jean Noël à la radio.
À la télé aussi.
Mais j'avais pas la télé, madame.
Il a fait les 36 bouts de chandelle.
Les 36 jambes.
Pas les bouts de chandelle.
Ça, c'est en période de crise, les 36 bouts de chandelle.
Bon, dites-moi, mon héros de série télé.
Mais c'est une série américain, votre héros.
Pardon ?
Il est américain, votre héros.
Oh, bah, à l'époque, toutes les séries venaient des États-Unis.
Alors, donnez-nous le titre de la série.
Mais non, c'est ça qu'il faut trouver.
C'est Tony Curtis.
Ce n'est pas Tony Curtis.
C'est le type qui était dans le village, comment ça s'appelle là,
le prisonnier.
Le prisonnier.
Ah, le prisonnier, non.
Est-ce que c'est historique?
Vous pouvez trouver, franchement...
Oui, si génération.
Si vous trouvez bien la phrase, on lui pose une question que tout le monde se pose, et il répond, je veux réduire la fracture des générations.
C'est un président.
Il y a génération dedans.
Oui, il y a...
Génération.
C'est dans la phrase, je vous confirme, Chantal.
Non, c'est un feuilleton, on ne vieillit pas, c'est ça? Non,
non, non.
C'est un rapport avec les extraterrestres?
Non, non.
Non, non.
On lui posait toujours une question, c'est Columbo, lui demande, on peut lui
parler de sa femme. Non, non, c'est une question qu'on s'est posée parce que les 7 premiers épisodes, il y a un truc qu'il ne faisait pas. Dans le 8e, il commence à faire quelque chose de nouveau. Et là, évidemment, la question lui est posée. Il répond dans ce 8e épisode, je veux réduire la fracture des générations.
C'est pas Kojak. Il se marie.
Pardon?
C'est pas Kojak, non?
Et pourquoi il répond ça?
Parce qu'il se marie avec une jeune.
Il a commencé les sucettes.
Parce qu'il commence à sucer des choupa choups. C'est Kojak, l'inspecteur Kojak. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Et Florian Gazan. Et oui, l'inspecteur Kojak. Vous vous souvenez de Kojak?
Il était là d'une chaise roulante.
Mais non, pas du tout.
Ah, c'est l'homme de fer, celui-là.
Mais non, c'était Telly Savalas.
Et l'homme de fer, il était chauve? Je veux dire ça.
C'était Telly Savalas.
Telly Savalas était chauve. Parfois, il portait un chapeau pour cacher sa calvitie. Mais c'était le plus célèbre chauve du petit écran pendant longtemps. Et c'est vrai que pendant les 7 premiers épisodes, il ne suçait pas de choupa choups. Et d'un seul coup, il s'est mis à sucer des sucettes pendant tous les épisodes. Et à un moment donné, on lui a demandé, mais c'est quoi ces sucettes? Et il a répondu, je veux réduire la fracture des générations. La vérité, en fait, c'est ça, évidemment, c'est officiellement dans le feuilleton, mais officieusement, c'est qu'il avait arrêté de fumer, l'acteur, et qu'il avait remplacé la cigarette par des choupa choups, tout simplement. C'était une méthode pour empêcher l'idée de fumer.
Et si je vous chopé du diabète.
Bah oui, remarquez, il était assez costaud aussi, hein, Kojak. Vous auriez pu jouer Kojak, vous, par exemple, Gérard.
Oui, enfin,
non, il lui reste trop de cheveux.
Mais si, c'est vrai.
Non, moi, je cherche à faire un biopic, mais il n'y a personne qui me ressemble. Ça, c'est bon, les biopics pour les Césars, ça.
Ah oui,
c'est
oui.
Peut-être Gorbatchev avec une petite...
Ah oui, c'est vrai. Tu mixes avec Reichmann, ouais.
Vous cherchez à faire un biopic?
Non.
À qui il ressemble, Gérard Jugnot?
À personne.
Ah oui, c'est vrai, on cherche, on ne trouve pas.
Il est unique.
Ah oui.
C'est Raymond Barr, mais je suis pas sûr que ça marche fort.
Ah, Balladur, la fabuleuse vie d'Edouard Balladur.
Trop violent.
Vous avez tourné avec Gérard Jugnot, vous, Chantal, là-dessous?
Ah oui, j'ai tourné une fois, il m'a jamais rappelé, oui.
Il y a peut-être une raison.
Non, je fais des pubs avec toi.
Mais oui, t'as fait plein de pubs avec
Elle
moi.
Était dans une époque formidable aussi.
Ouais.
Ah, qu'est-ce que vous faisiez dans une époque formidable?
Je disais ça, l'autre pauvre.
Ah oui?
À Tiki Olgado.
Ah très bien.
Ah oui, oui.
C'est
ah,
tout
c'est une réplique.
Et elle est facile à diriger parce qu'ici, c'est pas facile pour moi.
Oh, deux répliques.
C'est une super actrice.
Ah oui, oui. Mais, oh, mais elle comprend le texte.
Pas du tout, non?
Il lui donne en phonétique. Pour
mais
dire.
Ça se saurait si les acteurs devaient être intelligents.
Ah, vous pensez que les acteurs ne sont pas intelligents?
Non, on n'a pas besoin de ça, des fois. Si c'est bien écrit, si on écrit un rôle intelligent, il suffit de dire les mots, et puis on a l'impression d'être intelligent. C'est génial.
Je sens que Pierre Bénichoux est d'accord avec ça, hein, Pierre.
Non, c'est vrai, c'est, ça empêche de bien jouer, d'être intelligent.
Ah bon?
Enfin, je vous raconterai ça là, pour le cours d'une prochaine émission, au cours de la saison prochaine, parce que je viens d'être en heure supplémentaire pour la saison.
Oh, une question zoologique pour Véronique Pechenet. Laurent Baffy va me haïr de poser des questions zoologiques en son absence, mais lui, il répondrait tout de suite, donc autant que je profite justement qu'il ne soit pas là pour vous piéger avec ce nom, ce mot d'animal que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé dans la presse aujourd'hui, une bartavelle. La bartavelle. Attendez, vous dites bah oui. La bartavelle est la plus grande des quoi?
Des perdrix.
Des perdrix. Oui. Bonne réponse.
Il n'y a pas besoin d'être Baffy pour connaître la bartavelle.
Ah bah ouais, je
c'est comme si vous me disiez le francolin
que
Chantal va rencontrer bientôt au Sénégal.
Parce que vous êtes chasseur, alors peut-être.
Pas du tout.
Monsieur. C'est dans Pagnol.
Pas du tout, mais le.
La bartavelle.
La bartavelle, c'est dans.
C'est à la page 113, il me semble, qu'on parle de la bartavelle. Moi, ouais, je l'ai beaucoup aimé, ça. Oui. Oh merde.
Oui, c'est vrai, ça.
Non, mais sérieusement, Chantal va voir des francolins qui la perdrix sénégalaise.
Ah oui.
Ah bon, je vous en ramènerai.
Bah, les perdrix vont pas voir un perdreau de l'année non plus.
J'ai vu récemment un paon qui m'a fait vraiment une parade amoureuse.
Ah oui.
Non mais enfin Chantal.
Non, mais c'est vrai.
Pour faire rire, vous faites le paon maintenant.
C'est très beau, un
Elle port. Le fait bien en même temps.
Oui, mais...
hein. Moi, juste une fois encore pour me faire rire encore.
On dirait plutôt Jacques Villeray dans la soupe aux choux.
Une autre question, si vous voulez bien. Oh là, pas facile cette question pour Roselyne Costa qui habite Tours. Qu'est-ce que l'anagnorisis ? L'anagnorisis, qui d'ailleurs est le titre d'un nouvel album du chanteur israélien Asaf Avidan. Anagnorisis.
Est-ce c'est que
le
cul avec qui la... chante.
Qu'est-ce qu'elle a dit, elle, encore ?
C'est le cul qui chante.
Quoi ?
Anagnorisis.
Le cul qui chante. Oui, alors écoutez.
En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire puisqu'il y a un A privatif.
Anagnorisis. Non, je crois que ce A-là, justement, n'est pas privatif du tout. C'est un néologisme. J'ai du mal à le dire. Ouais. Anagnorisis. Et ça a été utilisé en premier par, vous voyez, quand même, on va loin, Aristote. Oh. Et c'est vrai que ce chanteur qui choisit ce mot pour en faire le titre de son album, c'est quand même assez rare.
C'est Stéphane Echer ?
Non, non, je vous ai dit, c'est Asaf Avidan.
Ah, ben, je ne connais pas.
Ben, voilà.
C'était pas le chanteur qu'on devait trouver.
sinon, c'est fait.
Je vois la peur dans les yeux de Michel.
Je veux rentrer chez ma mère.
Vous pouvez m'emmener ?
Oui, oui. Comment il s'appelle, ce chanteur ?
Non, Chantal, vous avez
Asaf de plus Avidan. En plus...
Chantal...
Je suis perdu.
Je suis très inquiet, hein. Catherine Laborde a l'air moins perdue que vous.
Non mais...
J'ai là à ma gauche, mais un duo.
Je crois que c'est très dur à faire, hein, l'autre duo.
Ce duo-là, mais alors là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, je sais pas comment dire, de vide abyssal.
Pas tant que ça quand même, hein, on est habité.
Faudrait créer un triangle des Bermudes.
Monsieur Rollin, je vous plains, hein, je ne sais pas comment vous faites.
Bah, ça lui permet de briller.
S'agit-il d'une figure de style littéraire ?
Non, c'est une technique littéraire, une technique narrative, vous voyez. Et c'est...
Ah, ok.
Alors,
donc c'est un peu comme une anaphore. Le Anna et le...
Ah non, non, non.
Oui, mais ça, c'est un trope.
Non, non, c'est une scène particulière dans une pièce, dans un film.
C'est quand on meurt.
C'est la scène de fin.
Non, non.
C'est la naissance
d'un petit enfant.
Est-ce que ce serait un flashback ?
Un flashback, non.
Mais c'est la scène
que ça a à voir avec un narrateur.
Où on comprend le nœud de l'intrigue.
Alors, vous êtes pas loin de l'affaire, Caroline.
Vous voyez, à force de dire des conneries,
c'est un flash dans la tête de quelqu'un.
Pardon.
C'est un flash dans la tête de quelqu'un.
Et vous, par exemple, à quel flash vous avez eu?
Moi, j'ai rien. Mais vous voyez que quand on voit l'esprit qui réfléchit.
C'est ah pas oui, oui, mais je ne les vois pas. Là,
c'est quand on résout le problème
avec le cœur antique.
Pardon.
Est-ce que c'est un rapport avec le commentaire ou le cœur antique?
Pas du tout.
Est-ce que c'est quand on résout l'intrigue?
Alors oui, en quelque sorte, mais c'est plus précis que ça.
C'est quand on trouve la solution.
Mais c'est trop tard.
C'est la résolution.
C'est la résolution, mais c'est plus précis que
le
ça.
Le dénouement.
Non.
Non, mais ça a sonné maintenant, c'est lui qui le dit.
Oui, bon.
C'est l'action de reconnaître quelqu'un. C'est quand quelqu'un, dans un roman, dans une pièce de théâtre, dans un livre... Quand quelqu'un est méconnu et que d'un seul coup, il est reconnu, on sait qui c'est. C'est le résultat de l'action récognitive, la reconnaissance de quelqu'un, d'une personne méconnue, qui jusque-là, dans le livre, était inconnue ou méconnue. Et d'un seul coup, on la reconnaît dans un récit, dans une fiction. Un personnage que d'un seul coup, on reconnaît. Pas Ulysse, à la fin, vous voyez,
dans Homère,
Iliade et l'Odyssée, quand il revient, vous voyez. D'un seul coup, il se fait reconnaître. Eh bien, c'est le moment de l'anagnorisis avec un A privatif, comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure.
Ah oui.
Question normalement à laquelle Monsieur De Kersauzon devrait pouvoir répondre.
Ça va encore être une truc à la con.
Et pas moi.
Ah, vous aussi, parce que vous êtes une littéraire, chère...
Ah oui, mais vous m'oubliez comme ça.
Chère Marcella, et je ne vous oublie pas, parce qu'il s'agit évidemment d'un livre que vous avez forcément lu. D'ailleurs, tout le monde l'a lu à l'école, ne serait-ce. Il s'agit du Vieil homme et la mer.
C'est beau, Hemingway, c'est beau.
The Old Man and the Sea, en version originale.
C'est la vie d'Olivier.
Ernest Hemingway, évidemment.
Très ennuyeux.
Oh, non. Ah non, mais il est magnifique.
Très beau. T'as jamais vu la mer pour ça. Ça n'a aucun intérêt.
Moi, j'ai adoré, moi.
Le vieux
qui se bagarre pour ramener son poisson qui est bouffé par les requins, j'adore.
Aucun intérêt.
Alors, ma question est toute simple, puisque c'est Jean Dutour qui fut le premier à traduire pour la France Le vieil homme et la mère.
Oui, d'ailleurs, quand on lit en anglais, c'est pas du tout la même histoire.
Ah, c'est vrai?
Oui, anglais, il est à la chasse en anglais.
Quand on lit l'origine avec Hemingway, ça se passe avec des chevaux.
Non, mais c'est vrai que...
Ça s'appelle le vieil homme à la ferme. Tu rigoles?
Vous voulez le prénom du vieil homme, Laurent?
Non, pas du tout.
Le prénom de la mère, Michel. Qui a perdu son chat.
Non, mais vous n'êtes pas loin de la vérité, au fond, monsieur de Kersauzon, mais pas quand même au point que le cheval ait été remplacé par un poisson et la mère ou la ferme par la mère. Mais c'est vrai que Jean Dutour, quand il a traduit le vieil homme et la mère, a changé quelque chose.
Le nom du bateau.
Dans le livre.
Ça s'appelait Le vieil homme et la merde et ça parlait d'un. Non. Il a changé dans un EHPAD.
Changé l'océan, le lieu de la pêche.
Il n'a pas changé le lieu de la pêche.
Le nom de la femme du vieil homme.
Il a changé les titres. C'était une femme qui pêchait. Titre du roman. Ouais.
Dans la première édition française, traduite donc par Jean Dutour.
C'était Le jeune homme et la mère.
Ouais.
Mmh. Jean Dutour a changé quelque chose par rapport à l'original. Pardon.
Le nom du poisson.
Oui, alors.
Ah ouais. Espadon au lieu de requin.
Alors, espadon, c'est vrai dans la version française.
Oui. Et requin?
Requin, non.
D'un dauphin.
Solmenier.
Un dauphin, non.
Ouais. Un gros poisson, alors.
Une sardine à l'huile.
Une solmenière, non. Une sardine à l'huile, non. Trois cafés, je tâche l'addition, cinq. Ouais.
Un dauphin.
Une frite.
Une frite.
Un marsouin.
Une morue, un maquereau.
On n'est pas loin.
Un dauphin, un marsouin.
Pas un marsouin.
Un marlin.
Un marlin. Voilà. Excellente réponse, non, Philippe Manœuvre.
Mais reprends-toi, Olivier, qu'est-ce que tu fous, merde? Un marlin.
Et alors?
Bah, tu connais.
Et oui, parce que...
Mais pourquoi tu l'as pas dit?
Parce que ça m'intéresse pas, ce bouquin, je t'ai dit.
Ah, d'accord, pardon.
Je n'aime pas ce livre.
Quand même, moi, à la place de monsieur de Kersauzon, j'aurais honte.
Mais pas du tout.
Que ce soit Philippe Manœuvre qui retrouve le marlin.
Mais, non, mais c'est normal.
Parce que Philippe a adoré Marlin l'enchanteur. Hein.
C'est normal qu'il trouve ça, ça l'intéresse. Il a trouvé le bouquin. Je détestais ce livre, moi. J'ai trouvé que c'était une imposture.
Oui, mais tu aurais pu donner une liste exhaustive du nombre de poissons qui ont trouvé dans un endroit.
Non, je trouvais que c'était voilà. Ça parle de la pêche au gros et la façon dont il parle de la mer et la décrit, c'est comme s'il y était jamais allé. J'ai pas du tout aimé ce bouquin. Autant quand il parle de l'Espagne, de la tauromachie et tout, il est très crédible. Ouais. Autant dans le maritime, quand tu le lis, il me met mal à l'aise. Bon, maintenant c'est tout. Mais je comprends que ça t'ait plu, Manœuvre, avec tes rayures. T'as un gilet de marin vu par Hemingway, rouge et noir. Tu vois. Voilà. Mais il me fait chier ce mec. Alors là, putain.
Ah, je l'ai réveillé, hein, là.
Quand il est assis à côté de moi, il revient de la pêche au gros, hein.
Vous pouvez pas nous lire quelques pages du vieil homme et la mère de votre version, monsieur Kersauzon?
La nuit commençait à tomber sur cet horizon trop gris. Et le soleil avait donné encore quelques lueurs sur la crête blanche des vagues, me faisant oublier que la journée avait passé trop vite. Encore une fois de plus, je devais continuer à chasser sur cet océan sans fin. Sans doute cet animal que je ne retrouvais pas, qui mettait en défi permanent le sens même de mon existence, mon désir de pêche et peut-être ma destinée. C'était une rencontre, je le savais, elle était faite pour moi, elle était faite pour nous. Nous allions être bientôt face à face dans cet océan de lumière où je devais tout à coup tenter de le sortir de l'eau. Je savais que peut-être, puisque je mettais mon temps, mon existence et mes croyances en jeu, c'est ma vie que je risquais. Je la risquais pour l'attraper, à moins que ce soit lui qui ne m'attrape. Je le savais dans le plus profond de moi-même. Je le vivais avec tristesse et avec la volonté de la certitude de ceux qui n'ont pas peur de mourir. Je continuais à pêcher jusqu'à la fin de ce livre.
Ah, voilà. Ça, c'est de la version. Merci, monsieur de Kersauzon. Une question pour David Dupré, qui habite Arras. Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemarche? Ogier de Danemarche, célèbre chevalier de Charlemagne.
Tout le monde.
Ah oui, tout le monde connaît Ogier de Danemarche, le célèbre chevalier. Un des chevaliers de Charlemagne, un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne.
C'est un rapport avec la trompe, la corne.
Roland Aroncheveau.
La corne.
Aucun rapport avec Roland Aroncheveau.
C'est lui qui a dit que Charlemagne avait la barbe fleurie.
Non plus.
Ah, il portait un gilet jaune.
Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier, Ogier de Danemark, capitaine de Charlemagne.
Il a comment écrit, vous écrivez
il a écrit quelque chose.
Ah, il venait du Danemark, hein, sûrement.
Oui. Ah,
alors,
okay, d'accord.
Voilà pourquoi c'était des mercenaires à l'époque.
Il a écrit quelque chose.
Ah, il n'a rien écrit, non.
Il a inventé l'école.
Il n'a pas inventé l'école.
Est-ce qu'on aurait fait un film là récemment?
Non.
À propos, ce serait dit par lui qui aurait adoubé Charlemagne.
Non plus.
Nommé chevalier, non.
Non.
Tout le monde connaît, on le connaît sous un autre nom.
Ah oui, alors vous, vous le connaissez bien en plus, Caroline.
Il est connu pour un fait d'armes particulier.
Il a défendu Charlemagne. Et puis après, d'ailleurs, je crois même qu'il a combattu les Français, parce qu'il est c'était des mercenaires, hein, ces gars-là, à l'époque. Il travaillait à...
Mais c'est quoi comme métier, ça, travailler à Tchou?
Il travaillait pour un pays, puis après pour un autre.
Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom?
Ah ben oui, oui, évidemment.
Et ce nom, est-ce qu'il sonne très français?
Ah là là, madame.
Oui.
Joyeux. Ah, c'est une marque de quelque chose aujourd'hui.
Ce n'est pas une marque de quelque chose.
Est-ce que ça donnait naissance à une expression qu'on utilise beaucoup?
Une expression, si vous voulez, non, mais...
Un mot.
C'est pas tout à fait une expression, trois mots même.
Trois mots. Et est-ce que c'est devenu une devise?
Ah non.
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 C'est une excellente question à laquelle Monsieur Dupré, évidemment, est associé. Et je pense que Monsieur Dupré, je suis en train de faire le chèque RTL.
Attendez.
Je crois que c'est le troisième ou quatrième chèque aujourd'hui.
Non, on a beaucoup donné.
C'est pas le slogan de la ville de Paris?
Ah non, Ogier de Danemark n'a pas donné le slogan de la ville de Paris.
Merci. Est-ce que c'est donné le nom à un monument?
Il est un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne.
Ouais. Ah, ok.
Ogier
c'est lui qui a donné le nom aux Carolingiens?
Du tout. Ogier de Danemark est plus connu sous le nom de...
Du roi Arthur?
Non plus. Non.
Pourquoi vous dites surtout vous, quand j'ai demandé, il a inventé le poker?
Non.
Mais on se rappelle...
Ah, le jeu de go!
Le jeu de tarot!
Le jeu de pomme!
Le jeu de cartes!
Non.
La
jeu de cartes! Taisez-vous!
La belote.
Le bridge! Le bridge!
Le poker!
Bridge. Le gin rami! Le gin!
Il a rien inventé.
Oh là. Mais non, le jeu de cartes porte son nom! C'est ça?
Non.
Ça a rapport avec les cartes? Ça a rapport avec le bill poker?
Ça a rapport avec les cartes.
Avec les cartes.
C'est le roi du jeu de cartes.
La réussite!
Pardon?
C'est le roi du jeu de cartes.
C'est quoi le roi du jeu
de cartes? Le roi de cœur! C'est le roi de carreau!
Le roi de carreau, non.
Trèfle! Pique!
Ça peut pas être le roi puisqu'il est...
C'est un des valets! C'est un valet! Le valet du roi de carreau!
Le valet du roi de cœur!
Il a dit ça
rapport. C'est trop tard.
Valet de pique.
C'était le valet de pique. Bonne réponse de Christina Cordula, mais c'est trop tard.
Le valet de pique.
Je suis arrivé, hein.
Ah oui, vous y arriviez, mais...
Mais
sur le gong, le valet de pique. Je pensais que vous auriez trouvé plus facilement.
Ah oui, quand on joue aux cartes, c'est vrai qu'on les appelle par le prénom, les mecs.
Pas trouvable.
Comment ça?
C'est compliqué. Je sais qu'ils ont tous un nom, mais...
Eh ben, quand même, depuis le temps que vous jouez aux cartes.
Ben oui, mais que je joue, je me concentre sur le jeu, pas sur le nom des cartes.
Vous pourriez quand même regarder comment ils s'appellent, vos cartes.
Ben, écoutez, la prochaine fois que j'aurai un brelan de valet au poker...
C'est marqué sur la carte?
Vous voulez dire que chaque valet, chaque dame et chaque roi a un nom.
Ah bah oui.
Mais c'est marqué sur la carte?
Pas sur toutes les cartes, mais sur les jolies cartes, oui.
Ogier, il y a marqué Ogier.
Oui.
Non, il y a marqué Ogier de Danemark.
Non, Ogier tout court.
Ogier tout court.
Oh, bah alors comment on était censé savoir qu'il venait du Danemark?
Parce que c'est moi qui vous le dis. C'est comme le valet de trèfle, c'est Lancelot du Lac, voyez-vous.
Ah, oui. Plus facile déjà.
Et oui, le valet de carreau, c'est Hector, héros de la guerre de Troie.
Mais vous me donnez une idée, parce que pour tricher, c'est vachement bien. Faut apprendre tous les noms et avoir un pote et lui dire maintenant...
Le valet de cœur, c'est Lahir, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc.
Ah oui, Lahir, oui.
C'est vachement bien.
Ah oui, oui.
Utiliser cette technique. Pas pour tricher, bien sûr, mais...
Oui, ça me rappelle le Corse qui dit à son pote, « Dis-moi, mon petit garçon, il a 3 ans, il sait compter. » Il dit, « Vas-y, Titi, compte. » Le petit, il compte, 1, 2, 3, 4, il dit, « Vas-y, continue. 5, 6, 7, il dit, « Vas-y, encore, 8, 9, 10, allez, et encore, valet, dame, roi. »
Ah oui, elle est mignonne.